Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Salut, c'est Régis, tu écoutes mon podcast Humeur Humoristique. C'est le 51e épisode que tu viens de lancer avec Jérôme Niel. Si j'ai pu le recevoir dans le podcast, c'est grâce à Adrien Méniel qui a recommandé mon podcast. Donc merci à lui. Si toi aussi tu veux aider le podcast, je te rappelle les bases. Abonne-toi pour ne rien manquer, mets 5 étoiles sur la plateforme de podcast que tu utilises, donne ton avis sur iTunes ou sur YouTube, ou tu peux même venir me le donner directement sur les réseaux sociaux. Si maintenant tu aimes beaucoup ce que tu entends, tu peux partager le podcast sur tes réseaux. Ça fait toujours super plaisir. Et puis si tu veux que je fasse la blinde d'épisodes, que je reçoive des invités de fou et que j'investisse encore plus de temps dans le podcast, tu peux soutenir financièrement le podcast en donnant ce que tu veux. C'est pas un abonnement, c'est en une fois. Tu peux donner ce que tu veux, ça va de 1€ à 1 237 000, ce que tu veux. Ça m'encourage à continuer encore très longtemps. Le lien est en bio. Bonne écoute. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une personne qui me fait mourir de rire, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou encore sur Canal+. Je reçois Jérôme Niel. Comment ça va ?
Eh bien, ça va très bien. Merci de me recevoir, Régis.
Mais avec plaisir. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de faire le podcast.
Avec grand plaisir.
Tu adores les podcasts, parce que c'était justement ma première question. Est-ce que tu consommes beaucoup de podcasts ?
Pas du tout, mais je les adore, profondément. J'écoute le seul podcast que j'écoute régulièrement, c'est On de la traconte, avant de m'endormir. Voilà, que des histoires de meurtre.
Avant de t'endormir, d'ailleurs.
Je m'endors avant la fin de chaque podcast, ce qui veut dire que j'écoute des moitiés d'histoires de meurtre, okay. Généralement. Donc mon Spotify est rempli de moitié juste à chaque fois que tu vois où j'en suis arrivé. Donc je reprends le lendemain et je me re-rendors. Donc je les écoute en 3 fois. Et de temps en temps, il me reste pas. Je sais que la fin de ce podcast suffira pas à m'endormir. Donc j'en entame un nouveau et je les finis jamais. Donc okay. Je sais jamais comment se terminent ces histoires de meurtre. Enfin, souvent très mal. Hein. C'est comme les histoires d'amour. Allez, ciao.
Ok, c'est un concept. Bah, ça tombe, tu écoutes en fait que la partie où les gens sont en vie, donc ça va, c'est pas trop flippant pour dormir.
C'est un peu ça.
C'est Adrien Méniel qui t'a conseillé d'accepter mon invitation, donc merci à lui s'il écoute l'épisode, on ne sait jamais.
Mais oui, je dis amen à tout ce que dit Adrien généralement, donc je me suis dit allez banque, c'est aussi gentiment conseillé, on va y aller.
Eh ben ça va, j'espère que tu vas pas le regretter au fur et à mesure de l'épisode.
Pour l'instant, je regrette rien.
En même temps, après 3 minutes, si tu regrettais déjà, ce serait très vexant.
Mais c'est toujours ça de prix.
C'est vrai, c'est peut-être les trois meilleures minutes du podcast, on ne sait pas.
Voilà.
En ce moment, tu joues ton premier spectacle, tous les mercredis de février et de mars, mais aussi les jeudis, vendredis et samedis du mois d'avril à l'Européen.
Exactement.
Et tu seras aussi en tournée en France, Belgique et Suisse à partir d'octobre.
C'est ça.
Alors le spectacle, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vraiment hâte de le voir parce que tout ce que tu postes sur Instagram vraiment titille ma curiosité, mais pas qu'un peu, puisqu'on voit un peu des gens monter sur scène avec des épées et des haches. On te voit faire un coup de pied sauté, magnifiquement exécuté d'ailleurs.
Merci.
Mais je t'en prie.
De quoi parle ce spectacle? Je ne sais pas si tu peux le dire ou si tu gardes justement le mystère autour du spectacle.
Ouais, alors moi j'aime bien garder le mystère. C'était un peu involontaire d'ailleurs, ça s'est fait tout seul en gardant le mystère parce que j'avais pas l'occasion forcément de parler de ce qu'il allait y avoir dedans. Et puis petit à petit, en donnant quelques indices, quelques photos comme celles que tu as pu voir, et bah ce côté-là m'a plu. Donc en fait, j'en parle très peu et je montre que ce type de photo pour justement susciter la curiosité chez les gens. Et ça marche très bien, donc je vais continuer comme ça. Et je vais pas forcément te dire ce qu'il y a, à part, je dirais, principalement, du coup, il y a moi. Et est-ce que les gens kiffent de moi, normalement? En tout cas, j'ai fait le maximum pour que cette sensation soit la suivante. Si tu m'aimes bien, normalement, le spectacle te plaira.
Je sais juste, et ça c'est ce que tu as dit sur le spectacle, que tu parles de caca, de drogue, de mort et d'insultes.
Oui. Exactement, grosso modo, c'est des axes que j'ai choisis.
J'avais aussi entendu dans plusieurs interviews que l'envie de monter sur scène, ça te titillait depuis un moment. Quand tu voyais les potes en faire, par exemple, ça te donnait envie. Tu avais aussi des notes de stand-up que tu gardais dans ton téléphone. Qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas, en fait?
J'ai rencontré un autre humoriste qui s'appelle Maxime Gasteuil. Et en fait... Un jour, c'était entre les deux confinements, il me semble. On parlait de scène comme ça, et moi je lui disais que j'avais des notes, et c'est un peu lui qui m'a motivé, sans doute peut-être venant de la part d'un humoriste dont c'est vraiment le métier depuis plusieurs années. Ça m'a fait un petit déclic où il m'a dit « vas-y, mais juste tente, tu vois ». Et donc je m'y suis mis, comme on avait peu de vision sur la suite, tu sais, entre deux confinements, on se disait « bon, on sait pas trop ». Ce qu'on va faire, pour l'instant, tout est à l'arrêt, etc., etc. Donc, j'ai dit, bon, allez, vas-y, je vais rouvrir mes notes et on va tenter de faire un sketch de 10 minutes et de le tester, quoi. Avec toutes les peurs que ça engendre, mais du coup, ça l'a fait.
Mais d'ailleurs, ton premier passage de 10 minutes, tu le fais au Fritsch Comedy.
Oui.
Et ce premier passage, tu le qualifies de catastrophique psychologiquement.
Ouais, c'est une expérience, c'est vraiment... On a entendu ces histoires mille fois, mais ouais, j'étais vraiment tétanisé par l'enjeu, par la peur de mal faire, d'oublier son texte surtout. Et du coup, oui, ce premier passage, il était très, très compliqué parce que j'arrivais pas à ressentir le moindre plaisir sur scène, malgré les blagues qui marchaient, tu vois, dans l'ensemble. Mais j'avais très peur, ouais, j'avais très très peur. Mes jambes tremblaient, quoi. Heureusement que je portais pas un slim, parce que sinon tout le monde aurait vu que vraiment j'avais les jambes qui tremblaient. Et ça s'est finalement bien passé, et j'ai fait un deuxième passage dans la foulée sur le conseil de mon metteur en scène, parce qu'après le premier, franchement, je savais pas. Et donc le même soir, 20 minutes après, j'ai refait un passage, et là, c'était toujours beaucoup de peur, mais un peu de plaisir. Et donc je me suis dit, en fait, ça peut être sympa et tout, vraiment. Du coup, on va essayer de faire un spectacle. Si je tentais, je pense qu'au fond, c'était vraiment pour avoir un spectacle, quoi. C'est pas juste pour faire des plateaux, tourner de plateau en plateau avec des petits 10 minutes par-ci, des petits 5 minutes par-là. Moi, l'objectif, si j'y allais, c'était vraiment d'avoir un show le plus vite possible pour montrer l'étendue de mon délire, tu vois. Mm-hmm. L'objectif, c'était ça, quoi. C'est pas, on fait ça, on essaye à des trucs. Non, c'est bon, on essaye de faire un spectacle, basta, quoi. Là. Si je me lance là-dedans, c'est pas pour regarder un peu ce qui s'y passe, c'est pour vraiment montrer un dos. Bon, voilà, moi, je fais ça, venez ou pas, et puis voilà.
La première à Marseille, t'as testé 50 minutes d'un seul coup?
Ouais.
Est-ce que c'est pas un petit peu de la folie?
Bah ouais, mais bon, je me suis dit que c'était bien de le faire comme ça, de soit se cracher d'un coup, ou soit... Soit que ça se passe bien, et du coup, ça s'est bien passé, heureusement. Comme on avait posé une deadline avec une première date de rodage à telle date, donc il me semble que c'était en novembre, octobre, ouais, octobre, non, septembre, pardon, fou là, je suis désolé, septembre. Du coup, j'avais l'été un peu pour écrire tout ça et faire quelques premières parties, justement, de Maxime Gasteuil. Mais j'ai fait en première partie de Maxime Gasteuil, j'ai fait le premier passage que j'avais fait au Fritsch Comedy que je commençais à peaufiner, et plus un deuxième passage, donc en gros en 18 minutes, quoi. Et ensuite, tout le reste, pour arriver jusqu'à 1h15, la première fois, c'était à Marseille, la première date de rodage et le point positif, c'est qu'il n'y a pas eu d'énormes bides ou pendant 10 minutes un tunnel de gênance. Donc ça c'était ultra positif parce que du coup on n'avait plus qu'à travailler vraiment tous les passages petit à petit pour ensuite arriver à ce qu'on aimerait avoir quoi.
Et est-ce que maintenant tu parviens à prendre plus de plaisir sur scène quand tu joues et à arriver un petit peu moins stressé ou c'est toujours relativement la même chose?
Depuis maintenant donc j'ai commencé deux mois, ça fait 2 mois et demi. Mm-hmm. Et là je pense que ça fait 3 dates que je commence à prendre vraiment du plaisir quoi. Dans le sens où je me permets encore du coup maintenant de rajouter des nouvelles choses vite fait entre quelques lignes que je connais sur le bout des doigts, tu vois. Donc mm-hmm. Je rajoute des petites improvisations et en fonction des rires du public, je peux les fixer ou pas, tu vois. Chose qu'au début, j'osais pas faire parce que j'étais encore sur mon texte ou bien le faire ou voilà. Et du coup maintenant, le texte je l'ai bien, donc je peux et le peaufiner toujours parce que ça se peaufine toujours et rajouter des bêtises.
Ben, je n'ai entendu que du positif sur le spectacle. J'ai entendu les gens dans le Floodcast dire beaucoup de bien. Donc Adrien Méniel, Florent Bernard qui l'ont vu, Baptiste Le Caplin qui a dit excessivement du bien dessus. Donc
ouais.
C'est quand même une belle promotion du spectacle. Quoi.
Ouais, c'est cool. Et puis c'est important. Pour moi, c'est très important que... Enfin, c'est très important. Quand ces gens-là, bon, donc, qui sont non seulement des potes, mais des gens avec qui je partage quand même une bonne partie de l'humour qu'on aime. Bon, on peut pas plaire à tout le monde, mais c'est quand même cool quand on plaît à ses potes avec qui on se marre.
Ah bon ?
Pour moi, c'était des étapes à chaque fois. Enfin, à chaque fois que je fais venir les potes avec qui je me marre beaucoup, que ce soit des potes qui travaillent dans l'humour ou pas, hein, parce que j'avais aussi des amis d'enfance qui sont venus, qui ont le même humour que moi, tu vois. Donc ça me stresse beaucoup quand à la fin, ils me disent Ouais, c'est cool, bravo. Ou, ouais, franchement, gars, c'était drôle, bravo. Enfin, tu vois, où tu sens vraiment. Donc, ça a été le cas avec Adrien et Flaubert ou Baptiste, où ça m'a touché, où c'était important, où j'attendais vraiment leur retour, tu vois. Mm-hmm. Et bon, ça aurait été pas grave qu'ils me disent juste, c'est bien dans l'ensemble, bravo à toi, où tu sens que c'est un peu poli, tu vois, parce que vous êtes tous arrivés à dire. Mais là, c'était pas le cas, donc je suis trop très content.
Et est-ce que maintenant, tu te considères un peu comme un stand-upper ou pas encore ?
Non. Moi, j'ai un spectacle, voilà. Comme un gars qui a un spectacle, voilà.
Mais est-ce que tu te dis déjà, pour le prochain, j'ai envie de faire d'autres choses ? Tu te dis
non.
Pas du tout
non,
pour le moment ?
Non, j'en suis pas là. Là, je me dis juste que j'ai encore des trucs, je pense, à ajouter dans le spectacle. Et je pense qu'il y a toujours des trucs qui peuvent naître. Tu vois, là, je rajoute vraiment des petites impros qui marchent, donc je les garde. Et peut-être aussi des idées avec des lumières, parce qu'il y a beaucoup de formes dans mon spectacle. Mm-hmm. Je suis pas juste avec un micro debout et tout. Donc, je me dis déjà celui-là d'arriver vraiment à ce que je veux d'ici la fin de l'exploitation du spectacle. Là, je vais le jouer pendant 1 an et demi à peu près, tu vois. Donc, mm-hmm. J'en suis au début. Et c'est déjà très cool, mais je suis sûr qu'on peut encore, gratter 2-3 trucs là-dessus, quoi. Donc déjà celui-là, et après, inchallah, un deuxième, je suis même pas sûr, je sais pas pour l'instant, je veux que celui-là, il soit vraiment à mon goût, quoi.
Bah, j'ai vraiment hâte de le voir, parce que tu as dit que si on t'aimait bien, on devrait aimer le spectacle, donc il n'y a pas de souci, je vais devoir adorer le spectacle.
Et toi, t'es où, toi ?
Géographiquement parlant ?
Ouais.
Je suis à Mons, en Belgique.
Ah, donc tu viendras me voir en Belgique, quoi.
Bah, j'espère, ou alors dans le nord de la France, ou après je peux me déplacer.
Hein. On verra ça, alors tu me diras.
Pas avec plaisir. On peut également te voir pour le moment dans la série Hors de lui de Baptiste Lorbert, dans lequel tu joues le rôle de Gino, un voyou aussi flippant que vulgaire, que tu fais super bien d'ailleurs.
Merci.
Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter ce rôle au départ ?
Le réalisateur. Qui est tout simplement un de mes meilleurs amis également, Baptiste. Et donc, travailler avec des potes, c'est toujours cool. Et puis, pour moi, avec Baptiste, c'était c'était la première fois que je travaillais avec lui en tant que réalisateur de sa propre série. Pour moi, c'était super excitant, tu vois. Mmh. Et puis, le rôle qu'il m'a donné, moi, c'est la récré. Donc, moi, j'adore les rôles comme ça et je voulais vraiment le faire comme il l'avait imaginé, et puis il me semble que c'est comme ça. On s'était vus tous les deux, je lui avais proposé plusieurs pistes pour ce perso. Puis du coup, je me suis inspiré de certaines personnes de mon département d'origine, le 78, en région parisienne. Et du coup, ça lui allait. C'était vraiment une très bonne expérience. Et puis de jouer dans la série de ses potes, c'est toujours très cool.
Et c'est comment de traiter de fils de pute, Ramzy ?
Oh, c'est génial. mais c'était quand ça tournait. Hein. c'était autre chose. En off, c'était autre chose. C'était pas fils de pute, c'était d'autres noms d'oiseaux, mais plus soft. Mais il y a beaucoup de chambrage quand tu tournes avec Ramzy. Et surtout avec Ramzy et Baptiste, qui sont deux grandes tiges de 2 mètres. Donc autant te dire que les vannes tournaient beaucoup autour de ma petite taille, où ils faisaient semblant sur le plateau de pas me voir. C'était leur running gag tous les jours, où ils me disaient bah, « il est où Jérôme ?» Voilà. Alors que j'étais à 50 cm d'eux. Voilà. Donc, mais ça, j'ai vraiment l'habitude depuis 10 ans avec Bat, sur ses blagues sur ma taille, notamment maintenant depuis qu'il est papa, comme il a des landos et tout, il me dit « tiens, c'est ton lit ». voilà, donc j'ai l'habitude.
Désolé de rire du coup.
Non, mais t'inquiète pas. Et bien sûr, ce genre de blague a plu immédiatement à Ramzy qui s'est engouffré dans la brèche pendant la dizaine de jours de tournage que j'ai fait avec eux. Donc voilà, c'est très, très puéril et c'est ce qui permet aussi d'avoir une ambiance absolument géniale sur un plateau que Baptiste dirigeait de main de maître parce qu'il n'était pas du tout stressé et néanmoins bosseur. Et donc c'est vraiment des ambiances de plateau moi que j'adore quoi. C'est-à-dire où vraiment tu déconnes et quand ça tourne tu bosses et tu t'y mets et c'est top quoi.
Ben je conseille à tous les auditeurs d'aller écouter la série. Il y a 10 épisodes qui sont vachement ouais. Cool.
Allez voir la ça. Série même. T'as dit écouter parce que t'es un podcastman. Ouais. C'est un réflexe mais c'est une série visuelle.
C'est vrai. Ça vaut le coup de le voir déjà rien que pour ta coupe de cheveux. qui est assez sympathique, ouais. Mais franchement, allez voir, la série est vraiment cool. Je pense que j'ai dit aussi écouter parce que je sais pas pourquoi les Québécois disent tout le temps écouter pour les séries et les films. Ah. Et j'écoute beaucoup de Québécois toute l'année et je pense que ça a dû m'influencer aussi. C'est les petites coulisses du podcast. Je suis un gros fan du Québec.
D'accord. Et du podcast québécois
aussi.
D'accord.
Donc
tu m'en donneras quelques-uns.
Ah, avec plaisir.
Parce qu'en fait, moi, c'est ça. En fait, j'ai besoin qu'on m'accompagne dans l'univers du podcast et qu'on me donne quelques podcasts à écouter parce que je sais pas, il y en a tellement, donc je sais pas où aller. Donc, à la fin, en off, tu me donneras une petite liste. Okay. Et ça pourrait m'intéresser.
Bah, avec grand plaisir. Mais je vais déjà en donner un qui est le plus connu au Québec, mais qui est vraiment incroyable. Comme ça, les auditeurs l'entendent en même temps. C'est le podcast Sous-écoute, qui est un podcast de Mike Ward, qui est un humoriste québécois qui fait beaucoup du pour très noir, très trash, mais qui est excessivement drôle. Et en fait, il reçoit juste deux autres humoristes et ils discutent sur scène.
Ah, trop bien.
Et c'est très, très drôle. Et en fait, peu importe l'invité, c'est toujours lui qui est le plus drôle, ce qui est très fort parce qu'il reçoit vraiment des stars de l'humour qui ont une répartie et tout. Et en fait, le podcast, ça a démarré sur Skype. Il appelait des potes. Et maintenant, cette année, il va jouer au Centre Bell, qui est un stade de hockey. Donc, il va recevoir 20 000 personnes pour son podcast.
Mais non.
Si, si.
Et lui, c'est pas un humoriste à la base.
Si, si, c'est un humoriste.
Ah, si, quand même, d'accord.
Ouais, ouais. Mais au tout départ, en 2011, quand j'ai écouté les premiers épisodes, il appelait des gens sur son Skype avec une qualité audio dégueulasse. Parce que c'était 2011 et maintenant il remplit un stade avec son podcast.
Incroyable.
C'est incroyable. Donc, je te conseille celui-là, mais je t'en conseillerai d'autres en off pour ne pas conseiller trop de podcasts pendant mon podcast, sinon les gens vont vraiment pas écouter le mien. Dans le podcast Histoire de succès, qui est un autre podcast que je conseille du coup, tu avais expliqué avoir un projet de long métrage avec Axel Malivernet et Robinson Latour. Vous en étiez à la V2 du traitement. Donc l'histoire non dialoguée, le ton et les personnages. Est-ce que ce projet continue ?
Oui, maintenant on va attaquer la V2 du séquencier. Donc le séquencier, pour expliquer aux gens, c'est après le traitement, on précise encore plus l'histoire, où on avance séquence par séquence, donc vraiment séquence par séquence. Donc on s'imagine le film, on dit tiens par exemple là, le personnage il est sur une moto il parle de ça, il parle de ci. Ensuite, deuxième séquence, ils descendent de la moto, ils marchent dans la rue, ils font ci, ils font ça, ils font ça. Troisième séquence, ils arrivent chez eux, ils sont dans le salon, ils font ci, ils font ça, il se passe ci, il se passe ça. Donc, c'est très long et il faut rentrer dans les détails, c'est important pour voir si un peu tout marche, ce qu'on a écrit auparavant, si ça fonctionne bien, s'il faut changer des séquences, s'il faut les bouger de place, parce que ça marche pas. Donc, on en est là. C'est très long, mais on avance bien. On est satisfait. Il manque encore, il y a des choses encore à préciser sur certains personnages, mais on avance et ensuite il faudra faire le dialoguer.
Mais je suppose que tu peux rien me dire sur l'histoire, le titre, le genre.
Le genre, ce sera une comédie, un peu comédie d'action, parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Donc, on va faire ça.
Tu avais aussi expliqué que vous souhaitiez développer des séries. Est-ce que ça, c'est un projet qui continue ou...
Ouais, c'est toujours en cours, mais là, on se concentre vraiment essentiellement sur le film, car on sent qu'il faut qu'on avance, tu vois, parce que si on laisse trop traîner, on risque de laisser passer des opportunités de présenter le film à des potentiels investisseurs. Donc, il faut vraiment qu'on avance là-dessus cette année. Et en plus, l'objectif, ce serait d'avoir fini l'écriture totale du film vraiment dans quelques mois. Voilà, avant l'été, ce serait l'objectif obligatoire.
Et le film, vous espéreriez le sortir quand ?
Le sortir ou le tourner ?
Le tourner et le sortir, oui.
En fait, le tourner, ça dépend, quoi. En vrai, le truc, c'est tout dépend. Parce que toi, tu peux estimer avoir une VDF. Mais ensuite, quand tu vas le présenter, je dis n'importe quoi, si on veut le sortir au cinéma, si tu as des rendez-vous avec Gaumont ou quoi, UGC, ou si tu vas le présenter à une plateforme, bah toi, tu penses avoir déjà fait une bonne version, mais bien évidemment, ils vont lire et ils vont faire « il faudrait peut-être changer ça » ou « peut-être changer ça », et donc tu repars au charbon. Donc en fait, tu peux jamais trop savoir. Mais nous, idéalement, on aimerait bien l'avoir tourné fini de tourner en 2023, tu vois. Ce serait trop bien.
Ouais, c'est tellement long sur les durées que espérer l'avoir tourné en 2023. Ok, ouais.
Ouais. Donc, mais ça pourrait être 2022, tu vois. On ne sait pas si, imagine, on finit, je dis n'importe quoi, le truc en avril, on lit, on fait quelques modifs et finalement on peut lancer une prépa et tourner en fin d'année. Je ne sais pas, tu vois. Tout est possible. On peut aussi ne jamais se faire, c'est ça qui est dingue. Mais on est quand même, pour l'instant en tout cas, ce qui est important, c'est que nous, on dénaturalise pas le truc et on l'écrive comme on l'entend et on va aller jusqu'au bout de notre démarche, quoi, tu vois. Okay. Et espérer que ça plaise à quelqu'un.
Mais c'est fou les délais et la durée que ça peut prendre, parce que moi je suis très habitué stand-up où t'as envie de jouer un truc, tu le joues le soir même et des fois c'est la semaine d'après et tu trouves ah c'est dans trop longtemps, ça vaut pas le coup. Alors là
tu m'étonnes que ouais c'est particulier, hein, ça c'est sûr. Et justement en fait, comme au milieu de l'écriture, du coup, moi, j'ai écrit mon spectacle et tout. Donc, ce dont tu parles, finalement, je le fais. Donc, ça ne me dérange pas qu'il y ait un projet à côté qui soit plus long, puisque j'ai ce truc instantané de la scène que je teste parallèlement, qui est assez agréable, effectivement, quand tu dis, tiens, vas-y, je recommence le lendemain ou je recommence le... Donc, ça, c'est chouette. Donc, moi, comme j'ai les deux sensations, là, pour l'instant, ça me va. Mais si j'avais que ça, effectivement, c'est psychologiquement, si j'avais que l'écriture du film, c'est compliqué, hein, c'est long. Et puis, on écrit à trois, donc on a quand même nos vies à côté, donc on ne peut pas écrire non plus tous les jours. Mm-hmm. Parce qu'il y en a parfois qui ont cette chance-là aussi, ils peuvent s'enfermer pendant 2 mois. Ça avance plus vite, forcément, aussi, quand tu écris tous les jours. Nous, ce n'est pas notre cas, donc... Mais on avance quand même. Le plus important, c'est d'avancer.
Je vous souhaite en tout cas que ça se passe bien, que vous puissiez le tourner. Donc,
Écoute, merci. J'espère que ça va le faire aussi.
Et hier soir, j'écoutais une interview de toi de 2015 dans laquelle tu disais que ce serait un rêve de tourner avec Quentin Dupieux. Et ben, justement,
j'ai dit ça en 2015.
Ouais.
Mais non, où ?
Ah, tu l'as dit dans Face à Face. C'est sur YouTube que j'ai regardé ça hier soir.
Oh, génial. Avec Rémi Cello.
Je ne sais plus le nom de l'intervieweur, pardon.
Purée. Et je disais quoi ? Et il dit, ah, c'est marrant ça.
Bah, il te demandait qu'est-ce que tu voudrais avoir dans l'avenir, comment tu voudrais que ça se développe. Et tu disais, ah, ça serait génial de faire des longs métrages, de pouvoir tourner avec, par exemple, Quentin Dupieux, que tu adores.
Oh putain, mais c'est fou. Attends, ça, je vais ressortir l'extrait, je vais lui envoyer à Quentin Dupieux.
À fond ?
Ah ouais, faudra que tu... Ah ouais, je vais essayer de retrouver ça.
Je pourrais te l'envoyer sans problème.
Ah ouais, c'est cool.
Je l'ai dans mon... Je l'ai regardé hier soir, donc je l'ai dans mes dernières vidéos regardées.
Ah bah je veux bien. Ah bah putain, eh, franchement.
Bah donc, c'est fait. Tu as tourné avec Quentin Dupieux.
Ouais, ouais. Et c'était... Alors c'est génial quand tu fantasmes. Tu vois, j'ai eu pareil, Quentin Dupieux et les sushis, c'est quasiment pareil, tu vois. C'est-à-dire que tu fantasmes quelque chose et c'est au-dessus de tes expectations, c'est au-dessus de tes attentes. Et moi, tu vois, j'étais comme ça quand j'étais jeune et tout. Je voyais les makis, je voyais les sushis, je voyais Sangoku qui bouffait ces trucs-là. Je faisais, oh, mais ça doit être trop bon ce truc-là, c'est pas possible. J'ai trop envie d'en manger une fois dans ma vie et tout. Et un jour, dans mon 78, je suis allé dans un japonais à volonté. En plus, oh, non, pas à volonté en vrai. Non, non, un japonais, mais somme toute assez classique, tu vois. Et j'étais comme ça, je prends des sushis, le petit poisson comme ça, sur le riz. Et je fais, putain, ça y est, enfin. Enfin, j'y suis. Je vais manger ce que j'ai vu dans plein de mangas, je dis Sangoku, mais dans plein d'autres et tout, où il se goinfre et tout. C'est mon tour, la petite sauce, comme ça, le wasabi, je trempe. Et là, vraiment, c'était fou, c'était, mais oui, j'étais fait pour manger japonais. En tout cas, pas encore les ramen, parce que bien évidemment, on ne sait pas, mais les sushis, c'est au Japon, ils mangent très peu de sushis. C'est beaucoup les ramen, c'est les sushis, c'est des plats beaucoup plus, un peu, je veux dire, pour les gens qui ont un peu plus d'oseille.
Okay.
Sinon, c'est beaucoup de ramen, beaucoup de viande, beaucoup de... voilà. Mais en tout cas, moi, à l'époque, j'étais comme ça, les sushis, les makis, et c'était genre magique, 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 magique. Et en fait, j'ai retrouvé cet effet-là avec Quentin Dupieux, où moi, j'écoutais donc sa musique quand j'étais jeune, parce qu'il est aussi DJ, sur le nom de Monsieur Oiseau, que je te conseille. Et donc, même à l'époque, il avait fait donc... il faisait du son de l'électro, du son électronique, et il avait fait une pub notamment pour Levis avec une petite peluche jaune qui s'appelle Flatterick, et c'était sa peluche, c'était un peu sa mascotte. Et moi, j'avais gagné cette peluche, alors pas l'original, mais une fausse peluche à une fête foraine à Rambouillet, donc à mes 17 ans, tu vois, et j'étais trop content, je l'avais ramenée de chez WAM, mais une grosse peluche hein, que je portais sur les épaules et tout, alors qu'en vrai, elle est beaucoup plus petite, mais une grosse peluche bien fake. Sans doute pas fabriqué dans les pays de l'Est et tout, mais bon, on reconnaît quand même la fameuse mascotte, et je l'ai ramenée chez moi, mais aujourd'hui dans ma chambre, chez mes parents, elle est toujours là, sur mon armoire. Donc, j'avais 16 ans ou 17 ans. 10 ans plus tard, ou un peu moins de 10 ans plus tard, quand je suis à Paris, je tombe sur Rubber, le premier film de Quentin Dupieux, où c'est l'histoire d'un pneu qui tue des gens. Donc, là, j'étais absolument subjugué. Parce que ce qu'il était possible de faire au cinéma, donc je me dis putain cet homme est incroyable, non seulement voilà au début il fait du son, maintenant il fait des films, et 10 ans plus tard voilà il me propose un rôle, donc j'étais vraiment comme un gamin. C'était, je l'attendais, et tourner avec lui, voilà, c'était comme les sushis que j'attendais et qui étaient magnifiques, et ben là c'était pareil, j'attendais, et tourner avec lui, ça a été exceptionnel, parce que c'est quelqu'un qui s'est fédéré une équipe comme personne, avec une sorte de bonhomie incompréhensible, un non-stress absolument génial. Et donc, tu es prêt à le suivre jusqu'au bout, en fait. Tout le monde est prêt à suivre ce gars jusqu'au bout. Jusqu'au okay. bout de tout, en fait, de tout. Et ça, c'est incroyable. Moi, j'avais jamais vu ça. Où tu ne doutes pas, tu rigoles, mais tout en étant professionnel, en travaillant et tout. Enfin, c'était génial. Vraiment, c'était génial. Je pourrais en parler des heures.
Je vois. Mais le film s'appelle Fumer fait tousser. Est-ce que tu peux expliquer quel rôle tu as ou tu peux pas trop en parler?
Je peux dire que le titre s'appelle Fumer fait tousser et que j'adore la cigarette, mais pas dans le film en général. Et donc comme tout bon film, Régis, je te le dis, comme tout bon film de Quentin Dupieux qui se respecte, je vais devoir garder le mystère. Tu vois, c'est ça qui fait qu'on attend. Un film de Quentin Dupieux, c'est que même après la bande-annonce, on fait bordel, qu'est-ce que c'est? Je peux pas en dire. Pas parce que j'ai un contrat où on m'a dit, voilà, tu signes ce papier. Non, c'est même un contrat moral avec les œuvres de Quentin Dupieux. Tu sais très bien que tu peux pas trop raconter comme ça l'histoire.
Et est-ce que tu sais quand sort le film?
Alors ça, je sais pas. Étant donné que cet homme est une machine, faut savoir qu'il a déjà tourné un autre film avant. Donc, en fait, il en a deux dans les cartons, déjà. Ça n'a aucun sens, c'est hilarant. Donc, il y en a un prochain, il y a un prochain film avant le mien qui va sortir avec Alain Chabat et Benoît Magimel, notamment, que j'ai vu, qui est génial. Et ensuite, il y aura le mien. Donc, enfin, celui dans lequel je joue. Je sais pas. Moi, j'aimerais bien cette année, mais c'est pas sûr. C'est soit fin de cette année, ou soit début 2023. Et donc, voilà, moi, j'ai eu l'occasion de jouer une semaine avec lui, avec Greg Ludig du Palma Show, Doria Tillier et Adèle Exarchopoulos. Et c'était absolument génial.
Waouh! Bah, voilà. J'ai hâte de le voir.
Ouais, moi aussi.
Est-ce qu'il y a d'autres projets que j'aurais oublié de mentionner par rapport à ton actualité?
J'ai joué aussi dans un film d'action. Mm-hmm. La suite d'un film qui s'appelle Balles perdues sur Netflix.
Oh, trop bien!
Ouais, donc il va s'appeler donc Balles perdues 2. Et donc c'est un petit rôle de flic où là, pareil, hein, c'était un nouveau checkpoint pour moi puisque j'adore la bagarre, j'adore l'action. Et donc de jouer dans un film d'action français sur Netflix, bah, c'était un kiff. Voilà, je joue un petit rôle. Donc je remercie aussi Alban Lenoir et Guillaume Pierret, le réalisateur, de m'avoir offert ce rôle. Voilà, ça aussi, j'étais très content, parce que quand t'as des flingues, eh ben franchement, c'est rigolo.
Mais d'ailleurs, dans Histoire de succès, tu disais que tu adorerais participer à S'ils faisaient une suite. Eh ben, c'est fait aussi.
De qui? De quoi?
Dans Histoire de succès, tu disais que tu avais adoré le premier, ouais. Que tu adorerais participer au deuxième.
Ouais, c'est ça. Mais je sais plus, tu vois, c'était quand que j'avais fait ça? Tu connais la date ou pas?
C'est dans le podcast Histoire de succès, donc c'est 2020 ou 2021.
D'accord. Parce que je ne sais pas si j'avais eu encore la proposition. Il me semblait que je les avais félicités du succès, donc j'avais félicité le Réal et Alban du succès du premier.
Oui.
Et que je leur avais signifié quand même mon envie, tu vois. Mm-hmm. De dire, ouais, les gars, au cas où, hein, les gars, moi, je suis là pour. Si vous faites un 2, je suis là. Donc je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, tu vois. Et puis ils devaient sentir qu'on avait aussi les mêmes rêves, tu vois. Donc ils m'ont proposé ce rôle-là et j'étais très content. Une semaine de tournage et c'était trop cool.
Mais je pense que tu dois continuer à dire ce que tu veux pour ton avenir dans les podcasts parce que à chaque fois ça se produit. Donc s'il y a un projet que tu veux faire, c'est le moment.
Laisse-moi réfléchir. Ouais, d'ici la fin du podcast, il faut que je réfléchisse qui on a. Ouais, les frères Safdi. J'aime bien les films des frères Safdi. Je sais pas si tu connais.
Je connais pas beaucoup, mais je suis pas très cinéphile, je t'avoue.
Ah, t'es pas très ciné. Bon, bah, je te conseille les films Good Time avec Robert Pattinson et ses deux frères qui sont des génies. Et t'as sur Netflix ensuite, ils ont fait un film qui s'appelle Uncut Games avec Adam Sandler, qui est du même style. Donc, c'est deux films très très noirs et très drôles et très génial. Et voilà, okay. J'aimerais tourner avec eux. Donc voilà, ce serait trop bien de tourner avec eux. Il va falloir que je pars faire mon anglais, mais voilà. J'aimerais bien tourner avec eux. J'aime bien Scorsese aussi. Je ne sais pas s'il est là, s'il m'écoute. voilà. Fred Cavaillé, voilà, j'aime bien. Alexandre Aja, je suis ultra fan d'Alexandre Aja. Donc voilà, j'ai lancé un peu comme ça, pêle-mêle, ça et là. Merci Régis
de
m'avoir motivé. Voilà, au moins, on croise les doigts. Peut-être qu'il y en a un des 3-4 que je vais faire.
Bah, j'espère que dans un futur podcast que tu feras, on dira, mais justement, dans le podcast Humeur humoristique, tu disais que tu aimerais tourner avec Scorsese. Eh ben, tu l'as fait. Bah, je te le souhaite, en tout cas.
Ah, merci.
Je te souhaite beaucoup de choses, en fait. Parce que si ça n'a pas été clairement établi déjà, je suis très fan de ce que tu as fait. Donc, je te souhaite vraiment que tu arrives à faire tout ce que tu veux faire. Ça serait tellement drôle de te voir dans un Scorsese, quand même. Ouais. Et maintenant qu'on est revenu sur tout ton présent, on va parler un petit peu de ton passé et revenir un peu sur ton parcours. Donc toi, tu es né le 14 juin 1985 à Trappes.
Ouais.
Alors enfant, je sais que ton voisin Guillaume Salis avait toute la ville Lego.
Ouais.
Que de l'autre côté, chez les Brossards, il y avait deux clébards dangereux. Mais ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle?
Ouais, je pense que j'ai très vite fait le débilos, hein. Alors c'est un truc qu'on peut penser assez classique effectivement pour la plupart des gens drôles qui en font leur métier, mais en tout cas oui c'était le cas. J'ai deux frères, moi je suis celui du milieu et je suis quand même le plus expressif. Bien évidemment, mes deux frères ne sont pas des T-1000 de Terminator 2. Ils ont des sentiments et ils ressentent certaines choses, mais ils sont moins expressifs que moi, c'est sûr. On a le même humour, mais moi, j'en fais beaucoup plus des caisses, par exemple. Donc, c'est ça un peu qui nous a différenciés et qui m'a sans doute amené à faire de plus en plus le débilos. Ça a commencé avec un niveau de grimace assez élevé, très jeune, que j'ai gardé jusqu'à mes 36 ans, finalement. J'en fais encore beaucoup aujourd'hui, même sur scène, d'ailleurs. Je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, ça a commencé avec des grimaces, et puis petit à petit, faire mon intéressant, en fait. J'aime bien faire mon intéressant, on va pas se mentir, Régis.
Bah, je suis dans la même team, donc il y a pas de souci, je comprends. Et est-ce que tes parents, eux aussi, étaient des gens drôles?
Plutôt mon père. Enfin, drôle. Il a pas fait de spectacle, tu vois. On en a discuté longtemps. Il a voulu se produire plusieurs fois. Je lui ai dit, papa, déjà, bosse un peu plus tes textes quand même, parce que là, ma mère, elle est stylée, et mon père, il était drôle, tu vois. C'était le drôle, quoi. Il l'est toujours, hein, d'ailleurs. Mais c'était plutôt lui qui avait le sens de la blague. Mais bon, ça peut être du genre une blague. Ça peut être du genre, oui, c'est nous, on est rentrés, poil au nez. Vraiment, hein, je déconne pas. Hein, il est beaucoup sur le poil haut qui rime avec ce qu'il vient de dire. Donc c'est, tu vois, c'est, on n'est pas sur un truc, tu vois. Quoi que celle-ci, je suis sûr qu'on a adapté une version sur scène. Mais c'est ce genre de blague du daron.
Bah, j'ai plus ou moins le même daron.
Bah, tu vois, voilà, ils sont là. On les aime de ouf, quoi. Ils sont là, ils disent, regarde celle-ci, celle que je vais tenter, bam, poil au doigt, bon, bah, bien joué. Effectivement, ça rime avec le A.
J'espère que ça t'a pas trop inspiré pour l'écriture de tes vannes du spectacle.
Mais il me semble qu'il doit y avoir, non, pas trop, mais il doit y avoir, ouais, quand même quelques jeux un peu comme ça, jouer avec les mots. Que je dois tenir de mon père, okay. À mon avis. Et j'en suis très fier, figure-toi.
Je n'ai rien à ajouter. Et est-ce que, petit, vous allez voir des spectacles avec tes parents, ou vous regardiez beaucoup les humoristes à la télé, ou pas spécialement?
Non, pas spécialement. Enfin, quand ça passait, il me semble que j'ai regardé les gros classiques, un peu comme tout le monde, tu vois, mais j'étais pas là du tout à bouffer du spectacle, plus des films d'ailleurs à l'époque. Mais si on allait voir un spectacle avec mes parents, c'était le divorce de Patrick de Dieudonné au Zénith, qui était absolument génial, avant le drame, tout ça, bien évidemment. Mais c'était vraiment un spectacle dont je me souviendrai toute ma vie, quoi. Parce qu'on y était allés tous en famille et c'était hilarant.
Et est-ce que quand tu le voyais sur scène, tu te disais, un jour ce sera moi ou pas?
Non,
du tout
non, non, non. À cette époque-là, pas du tout. À cette époque-là, j'étais vraiment beaucoup plus à m'imaginer. Et encore, je sais même pas si à cette époque-là, je m'imaginais vraiment, je savais, mais j'étais plus sur les films, tu vois. Mais je sais pas si à cette époque-là, même quand je regardais des films que je kiffais, je me disais, franchement, j'aimerais trop être là-dedans. Je pense que c'est venu quand même un peu plus tard. Pas longtemps plus tard, mais non que ce soit un objectif, mais à me dire, putain, c'est quand même cool les films et tout, tu vois. Mais c'était là la scène à l'époque, j'en avais même pas. Enfin, même quand je voyais Gad Elmaleh et tout, je me disais pas du tout, putain, j'aimerais bien le faire. Je riais, j'écoutais et je kiffais.
Est-ce que tu dirais que les films d'action ont une plus grosse influence sur toi que les humoristes et les comédies en général?
Ouais, c'est possible. Alors, moi, j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai commencé avec Van Damme et mes grands-parents qui nous avaient offert la VHS de Double Impact.
Ah, Double Impact. Trop bien.
Voilà. Donc, elle est toujours d'ailleurs à la maison. J'espère que ma mère l'a pas achetée. Donc c'était vraiment tous les Van Damme. Et puis j'avais un autre copain en France avec qui on partageait cet amour. Donc lui, moi, j'avais une partie des Van Damme, lui il avait l'autre partie. Donc vraiment c'était très très vite je suis allé là-dedans. Et ouais, je pense que d'ailleurs mon envie de faire des comédies d'action vient en fait pour mon amour d'un côté de l'action et de l'autre côté de la comédie, quoi. Il y a trop peu de comédies d'action et j'adore ça. Et aux États-Unis, ils sont très forts pour faire ça. Un de mes films préférés étant 21 Jump Street, qui pour moi c'est la perfection de jeux, de personnages secondaires absolument géniaux, parce que les Américains sont très forts pour ça, et d'action, et de comédie, et de situation complètement cocasse. Pour moi, ça c'est le genre de choses que j'aimerais faire à terme, ça c'est obligé, quoi.
Est-ce que t'as regardé la série Brooklyn Nine-Nine?
Ouais, bien sûr. J'ai pas tout regardé, mais oui, ça fait aussi partie des excellentes séries qu'on aimerait voir plus en France. Enfin, ce type ce type de bêtises, de conneries, qui mêlent plein de choses finalement, qui mêlent, parce qu'elles sont pas juste drôles et action, quoi. Il y a aussi des moments touchants. Enfin, ils sont vraiment très forts. Hein.
C'est vrai que c'est une série incroyable que je vous conseille au passage.
Ouais.
Alors après, adolescent, je sais que tu portais le survêt Sergio Tacchini, que tu faisais de la musculation dans le garage de ton pote Samuel en écoutant du Dr. Dre.
Ouais.
Mais est-ce que tu as fait du théâtre ou de l'improvisation ou alors des vidéos avec tes potes ou est-ce que c'est quelque chose déjà qui t'attirait à l'époque ou pas du tout?
On se filmait pas, on se filmait sur des conneries, mais tu vois, on n'était pas à faire des petits films avec chacun qui faisait son perso, non. On n'était pas là-dedans, tu vois. Si tu vas dans les archives, tu trouveras juste des images de nous qui fumons des clopes. Je sais pas, on se filme comme ça. Donc, il y avait pas beaucoup de direction artistique, on va pas se mentir, mais qui en soi était peut-être une direction artistique, justement. J'ai absolument rien foutre. Donc, je sais plus quand est-ce que c'est venu, mais effectivement, j'ai eu un caméscope, donc j'ai dû filmer des trucs. À un moment, je me souviens que j'ai fait quand même un montage pour une sorte de clip pour un mariage pour des amis, quand je devais avoir 20 ans, un truc comme ça. Donc si c'est moi qui me suis occupé que ça, c'est que j'avais sans doute commencé déjà des petits trucs, tu vois, par-ci, par-là. Donc ouais, ça a dû venir un peu comme ça, au hasard, mais je sais plus où j'en étais dans ma vie, ce que j'avais fait là déjà. Okay. Si j'avais commencé vraiment à tourner ou pas, je me souviens pas. Mais oui, j'avais mon petit caméscope avec disque dur intégré, qui nous permet de filmer. En fait, ouais, on filmait nos vacances, quoi. Filmer okay. Les vacances au ski, voilà, je dois avoir des rushs. Absolument jamais monté de vacances au ski avec des potes, tu vois. Ouais, ça a commencé comme ça, je pense.
Est-ce que à l'adolescence, t'as fait du théâtre ou de l'improvisation ou...
Alors, j'ai fait du théâtre un peu plus tard. J'ai fait quelques mois de cours Florent qui se sont révélés être un véritable fiasco. Mais c'était pour moi, c'était personnel. En fait, je m'épanouissais pas du tout, ça me plaisait pas, quoi.
Ok, qu'est-ce qui te plaisait pas?
Jouer du théâtre classique, c'était pas mon truc. Donc, j'ai fait ma tirade du nez de Cyrano et puis je me suis cassé, quoi. J'aimais bien les cours d'impro, ça je kiffais, mais il n'y en avait pas des masses. Donc, à un moment, au bout de quelques mois, j'ai arrêté parce que ça me plaisait plus. Et je suis allé faire des conneries sur Internet.
Mais alors, niveau études, tu as obtenu un bac économique et social. Tu as fait 2 mois et demi de fac de langue anglais-allemand.
Ouais.
Que tu as vite arrêté.
Ouais,
tu
c'est as... horrible.
C'est horrible.
Ouais.
Je suis prof d'anglais, donc moi, j'adore ça, mais...
Oh là là, t'as de la chance, ouais. Non, non, mais là, c'était pas possible. C'était pas possible.
Mais j'ai entendu que tu disais que tu séchais, que tu t'es fait un petit peu choper par ton père, d'ailleurs.
Ouais, totalement, totalement. Mais du coup, ça s'est bien... On en a discuté, tu vois. Ça s'est bien passé. Et il m'a dit, bon, bah, donc, on arrête, mais tu vas bosser, quoi.
Ce qui fait que t'as travaillé chez Castorama, d'abord en jardinerie, puis en retrait de marchandises.
Ouais.
Puis, tu as travaillé chez Hachette comme préparateur de commandes.
Mm-hmm.
Jusque-là, je suis bon ?
T'es totalement bon.
Avant que ta mère t'inscrive chez Studio École de France.
Exactement, qui est une école d'animation radio. En tout cas, qui te forme au métier de la radio. Donc, ça peut être animateur, journaliste ou ingé son, par exemple, un technicien de radio.
Et toi, tu as choisi animateur radio.
Exactement. Et par exemple, j'ai beaucoup plus appris finalement pour ce que je fais aujourd'hui dans cette école que au cours Florent pour moi, qui était un truc, le Studec, donc Studio École de France. Et cette école m'a appris finalement à écrire, faire des billets d'humeur, des chroniques, donc avec des blagues à l'intérieur et tout. Et donc régulièrement, j'écrivais. Et donc ça m'a beaucoup plus servi pour la suite que le cours Florent, tu vois.
Et est-ce que la radio, c'est quelque chose dans lequel tu te voyais évoluer ou...
Ah ouais, parce que c'est quand même trop cool la radio, en vrai. Dès que je suis invité en radio et tout, j'adore ça, quoi. C'est vraiment génial. C'est parce qu'il y a un autre ton, forcément. Il n'y a pas d'image, donc c'est vraiment quelque chose de différent et c'est vraiment du kiff. À chaque fois que j'y vais, c'est vraiment génial, quoi. Et d'ailleurs, je m'interdis pas d'en refaire un jour, mais là, j'ai d'autres objectifs. Mais si une fois installé dans le game, comme on dit, avoir une émission de radio, ça, ce serait un kiff. Ça va tellement vite, en plus. T'as des émissions d'une heure ou quoi quand t'es invité. T'as juste le temps de dire une phrase. L'émission est déjà terminée. C'est un autre espace-temps, en plus, la radio. C'est trop bien. Ça va super vite. C'est cool. Tu parles. Enfin, c'est génial. J'adore ça. Okay. C'est vraiment cool.
Et donc, tu préférerais être animateur radio que, par exemple, avoir un podcast à toi, par exemple?
Oh, bah non. Maintenant, effectivement. Là, que le podcast, il est bien ancré et tout, ce serait aussi intéressant. Même peut-être ouais, tout aussi intéressant que... Non, quand je dis radio, c'est effectivement podcast compris, quoi. C'est un espace de discussion derrière un micro, ça c'est vraiment cool.
Bah, je te verrai bien là-dedans. Je pense que ça serait très marrant à écouter. Mmh. Ensuite, tu as une première expérience télé où tu fais une chronique sur le high-tech et le sport dans l'émission Wesh, émission de talk show avec plusieurs animateurs. Comment tu t'étais retrouvé là?
Et bah ça, je crois que l'émission était présentée par Issa Doumbia et Alban Ivanov à l'époque. Okay. Et donc, je connaissais déjà Issa Doumbia. Donc, je crois que c'est Issa qui m'a proposé ça. Parce qu'en fait, je l'avais rencontré lors de mes 2 années d'école de radio. L'été, il fallait qu'on fasse un petit stage d'été. Et comme je venais du 78, j'ai fait un stage d'été dans la petite radio associative de Trappes qui s'appelle Marmite FM. Et là-bas, Issa Doumbia, car lui aussi vient de Trappes, était animateur là-bas. Et du coup, c'est là que je l'ai rencontré. Donc, je faisais une petite chronique sur le cinéma où je parlais des sorties cinéma que j'avais bien évidemment pas toutes vues. Mais je parlais de ça et c'était une petite émission qui s'appelait « J'aime le cinéma » et où je parlais des sorties ciné. Et c'est là que j'ai rencontré Issa. Donc, quand il a eu ce projet d'émission qu'il présentait avec Alban Ivanov, il m'a dit « Est-ce que tu serais chaud pour faire quelques chroniques là-dedans ?» Et j'ai fait « Ok ». Donc, c'était une première expérience assez cool.
Ça t'a tout de suite plu d'être face à la caméra?
Ouais, bien sûr. Après, bien évidemment, encore une fois, là c'était une chronique high-tech, donc j'avais aucune blague et tout, tu vois, c'était vraiment... Et je pense que j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps où ils avaient cette info aussi, mais ils n'ont pas retrouvé les images. Je crois que les images, elles existent plus. Ils sont au courant du truc, mais les images, c'est impossible.
Non, j'ai cherché, j'ai fouillé, il n'y a pas moyen.
Il n'y a pas moyen, et comme la chaîne n'existe plus... Tu vois, je sais même pas si les images existent vraiment encore quelque part.
Le prochain projet qui est Web Story, j'ai pas trouvé non plus.
Ouais, c'est en fait jusqu'à maintenant, il restait quelques doses, mais en fait non. Mais je crois qu'il y a un sketch qui traîne encore, qui est le. Fais voir si je peux trouver ça. Si je tape pilote de tondeuse à gazon, est-ce qu'il y a encore celui-là? Ouais, pilote de tondeuse à gazon, il y a un sketch sur Dailymotion.
Je le mettrai en lien dans l'épisode.
Exactement. Mais par contre, c'est très bizarre parce que je vois, il est du 14 juillet 2017. Or.
Ah, c'est quelqu'un qui l'a réuploadé parce que c'est 2008.
Ouais, c'est parce qu'en vrai, c'est 2008. Et donc là, j'ai les cheveux longs et c'était un faux portrait parce que je faisais des faux portraits dans une émission qui s'appelait Web Story. Donc, il parlait de Secret Story et je faisais des faux portraits de candidats qui n'avaient pas été retenus pour Secret Story. Et donc là, c'était un pilote de tout de sa gazon. Voilà.
Mais d'ailleurs, fun fact, dans l'émission, il y avait aussi Caroline Receveur.
Ouais, incroyable, qui maintenant possède un empire. Ouais, donc c'était vraiment génial.
Tu as fait des chroniques, des sketchs, des billets d'humeur dans l'émission. Et donc, j'ai deux questions. C'est comment tu t'es retrouvé là-dedans? Et est-ce que c'est une bonne chose qu'on ne puisse plus voir beaucoup d'épisodes? Ou alors ça te rend un peu triste qu'il n'y ait plus rien de disponible?
Oh, ni l'un ni l'autre. Enfin, déjà, je me suis retrouvé dessus en faisant un casting. Et j'ai été pris. Et en vrai, ça ne m'aurait pas dérangé qu'il reste des extraits. Ils ont été supprimés. Il reste le sketch du pilote de Tondeuse à gazon. C'est très bien comme ça. J'ai des cheveux très longs. Donc, c'est déjà du pain béni pour ceux qui veulent rire de ma tête.
Sur ce tournage, a eu lieu un coup de foudre amical et professionnel, car tu rencontres Axel Malivernet, qui lui connaissait la personne qui produisait et animait.
Exact.
Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné directement entre vous et que ça continue de fonctionner aujourd'hui puisque vous travaillez sur quasiment tous les projets ensemble?
En plus, j'en ai un souvenir assez précis où je me suis dit « Putain, il est génial. Enfin, il est drôle, il me fait rire, quoi. Enfin, » Déjà, je trouve qu'à l'époque, vraiment, mais c'était la rencontre, je trouve qu'il y a une petite ressemblance physique avec le moine. Comment il s'appelle,
Jean-Luc Lemoine.
Jean-Luc Lemoine. Donc ça, c'était assez drôle. Et il avait... à peu près le même ton, mais avec encore plus de sensibilité. Donc, c'est un truc qui m'a touché immédiatement. En plus, il est très grand, je fais la moitié de son corps. Donc, il y avait quelque chose qui marchait visuellement, je pense, que quand tu nous voyais tous les deux, tu vois. Même si lui, il n'est jamais à l'image. Mais du coup, c'est des trucs qui m'ont plu. Et petit à petit, naturellement, alors que lui était juste là pour donner un coup de main, techniquement parlant, pour brancher des caméras, pour etc., finalement, naturellement, mais alors ça, je me souviens pas. Je me souviens du moment où je me suis dit, putain, on dirait Jean-Luc Lemoine, il est drôle. Puis on était devant la baraque, et voilà, il faisait beau, tout ça. Et ça, je me suis dit, paf, oui, il est drôle quand même. Et ensuite, par contre, je me souviens plus comment ça s'est fait, où il a jeté un œil sur ce que j'écrivais pour me donner des conseils ou sur ce qu'il lui ressentait, puisque aucun de nous est finalement professionnels de l'humour, tu vois, si je puis dire. Lui, il travaillait à la banque à l'époque, et donc moi, je faisais mes petits boulots, on aimait juste déconner, tu vois. Et donc, en fait, naturellement, il a dû faire quelques retours qui m'a permis de modifier mon texte et d'être meilleur, probablement. Et ça fait maintenant 14 ans que ça dure, je crois, ou 15.
Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien entre vous encore maintenant au niveau de la personnalité, qui fait que ça matche bien Qu'est-ce qui fait que pour travailler ensemble, c'est parfait avec lui?
Bah, je pense que ça s'est fait, déjà ça s'est fait petit à petit, mais très vite on a trouvé l'équilibre parce qu'on n'a pas du tout le même caractère, mais du coup on se complète. C'est-à-dire lui, il prend plus de pincettes que moi, mais du coup c'est bien parce que quand de temps en temps il y a besoin de ne pas prendre de pincettes, donc c'est moi qui ne prends pas les pincettes. Et quand il faut les prendre, c'est lui qui naturellement sait bien les prendre aussi. Et donc on fonctionne, on se dit beaucoup des choses. En fait, on n'a plus rien aujourd'hui. On se dit tout, quoi. Donc c'est vraiment un des rares qui peut me dire certaines choses pour que je m'améliore. Et puis en plus, lui, il les dit bien. Tu vois, moi, si j'étais à sa place pour me corriger moi, ça se trouve, j'irais encore plus franco, tu vois. Mais lui, c'est parfaitement. Me dire, tiens, est-ce que t'es sûr de ça? Et du coup, je dis, ah ouais, non, peut-être que je peux le faire comme ça. Du coup, ça devient ce genre de choses. Et ça, c'est fait, ouais, c'est assez naturel, quoi. Et quand on travaille sur un autre projet avec d'autres personnes, là, pareil, en binôme, on marche bien parce que moi, je peux m'occuper de dire les choses un peu plus directement. Et lui, il va avoir des remarques sur des choses, bien évidemment, que j'ai pas vues avec mon cerveau de débilos. Donc on se complète très bien à ce niveau-là. Tu vois souvent les choses que je vois pas, et ensuite moi je dis les choses.
C'est vraiment chouette de travailler depuis autant de temps avec la même personne et que ça continue à fonctionner, c'est chouette.
Ouais, c'est trop bien.
Et cette émission, c'était pendant 2 étés à Gif-sur-Yvette.
Ouais.
Et après cette émission, Axel te demande si ça t'intéresse de continuer à faire des vidéos ensemble. Ce que vous faites dans le garage d'un pote, Julien, il me semble.
Ouais, Julien.
Julien. Ah voilà, ouais. Les recherches ne sont pas bonnes, je suis vraiment désolé.
Elles sont quasiment bonnes.
Et vous utilisez un sommier blanc en guise de fond.
Ouais.
Et vous montez sur Sony Vegas.
Ouais, c'est ça. Sony Vegas, sur mon ordinateur que j'avais eu pour mes 18 ans, je crois, que j'avais fait confectionner rue Montgallet à Paris, qui est la rue où tu as tous les composants d'ordinateur. Et j'avais fait avec mon grand frère qui m'avait composé un ordinateur de feu qui me permettait à l'époque de jouer à Unreal Tournament magnifiquement bien. Je peux dire que ça tournait du tonnerre, du feu de Dieu, mais Sony Vegas plantait pas mal sur cet ordi, en fait.
Et est-ce que tu te rappelles de la première vidéo que vous avez faite?
La première qu'on a faite, c'est comme c'était sur la ferme Jérôme, c'était forcément sur la ferme célébrité, puisque l'origine de la ferme Jérôme, c'est qu'on faisait des vidéos sur la ferme célébrité. Comme on avait fait des vidéos sur Secret Story, on a continué dans ce qu'on savait faire à l'époque, c'est-à-dire des blagues sur les émissions de télé. Et donc, c'est Axel qui a trouvé ce magnifique jeu de mots entre la ferme Jérôme et la ferme célébrité. Et on faisait des blagues là-dessus. Donc, ça doit être retrouvable, en revanche, sur Facebook.
Ok.
On a commencé sur Facebook, donc si tu remontes, tu verras deux, trois trucs qui traînent avec ce fond gris dans un garage.
Il faudra que je cherche sur Facebook. C'est vrai que sur Dailymotion, la plus vieille que j'ai trouvée, c'est celle sur Ribéry et Zaya.
Oh là 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 là.
Qui date un petit peu.
Je sais même pas ce que ça vaut. J'ai même pas envie de la voir, frère.
Bah, moi, elle me fait rire. C'est vachement drôle de retomber sur ces vieilles images avec un sommier blanc en fond. C'est quand même assez drôle.
Sommier blanc qui était en fait à l'image qui devenait un peu gris, mais parfaitement gris, parfaitement uniforme. Oui. T'avais un sort de truc magique, on se disait, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un truc qu'ils ont dû acheter en studio, un truc qui doit coûter 4000 balles et tout. Non, c'est juste un sommier avec un drap dessous. C'était improbable. Ce qui nous donnait un truc parfaitement uniforme, ça me fascinait.
Comment est-ce que vous travaillez? Parce que vous avez parlé d'actualité, vous avez parlé d'émissions de télé-réalité, de musique. Vous avez même fait une chanson avec On a les boules.
Ouais.
Qui était une parodie de Fouta Cagoule de Fatal Bazooka. Comment vous choisissiez ce que vous alliez faire, en fait?
On regardait du coup très souvent les émissions de télé-réalité avec en prise de notes. Et en fait, c'était en fonction, c'était un peu en fonction, bah, je sais pas comment c'est venu, foutre à cagoule, on a dû, on a les boules, je sais pas, c'est une idée qui a dû venir comme ça. Et parfois, sur l'actu, bah, on regardait ce qui s'est passé. S'il passait une news qui nous intéressait, on pouvait en tirer une blague, on le faisait. Donc, il y avait pas de règles, il y avait une sorte, j'imagine, de régularité par rapport aux émissions de télé-réalité, qui étaient assez régulières. Donc là, on avait de quoi faire régulièrement. Et de temps en temps, quand il venait un truc d'actu, on se disait, tiens, on peut faire une blague là-dessus, on y allait, quoi.
Et ensuite, vous avez emménagé ensemble avec Axel à Paris, à Gambetta. Ouais. D'où un nouveau décor pour les vidéos. Et exactement. Aussi des vidéos en extérieur, comme celle du métro, la fête foraine, le supermarché, etc.
Voilà, on était passé. Ensuite, on a changé un peu notre fusée d'épaule, puisque comme on commençait à faire, quelques des vues, là on vient de passer sur YouTube.
Ouais.
Mais comme on était passé sur YouTube et qu'on faisait des vidéos sur des émissions de télé-réalité, on utilisait les images. Et en fait, bah, plus ça marchait, plus on était vu, plus YouTube nous voyait et plus ils nous strikaient les vidéos, c'est-à-dire qu'ils nous les supprimaient car on utilisait des images de TF1, de M6 et on n'avait pas le droit, ce qui était vrai. Comme ça marchait de plus en plus, on se faisait striker nos vidéos de plus en plus tôt. Donc quand tu travailles gratos sur une vidéo pendant 4 jours, on montait, on faisait tout, et puis qu'au bout d'un moment, tu la postes et en 2 heures, elle est supprimée. Oui. On s'est dit, putain, il faut qu'on change, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à parler de thèmes. On a changé avec Jérôme, la firme Jérôme dans le métro, la firme Jérôme au kebab. Et donc, on a pris cette direction-là pour ne plus se faire striker les vidéos qu'on mettait en ligne. Et donc, on est parti là-dessus.
Parmi toutes les vidéos de la ferme Jérôme, avant que vous passiez sur MTV, ça serait laquelle ta vidéo préférée ou en tout cas celle qui t'a marqué le plus ?
Bah, mine de rien, à l'époque Dailymotion, il me semble qu'on avait fait notre première home page Dailymotion, donc c'est-à-dire être sur la page de garde quand ils te mettaient en avant. Donc c'était un peu une victoire pour tous les vidéastes de l'époque. Tu leur demandes qu'est-ce que ça fait d'avoir une vidéo en home page de Dailymotion, c'était toujours très kiffant. Et nous, c'était, il me semble que c'était une vidéo qui s'appelait Vous vous êtes là, héros.
Oui.
Donc, je vais taper en même temps pour voir si elle y est toujours. Vous vous êtes là.
Elle y est toujours,
Elle y est toujours, qui était une parodie de Guitar Hero. On avait fait une home page. Donc, ça, c'est un grand souvenir aussi. Et après, tu me dis, je sais plus. Bah, le métro, en fait, c'était bien aussi. Il y a Vous vous êtes là, héros et la firme Jérôme dans le métro, puisque c'était notre changement de thème, tu vois, c'était fini les émissions de télé, donc on tente un nouveau truc. Fallait que ça marche et ça a vraiment bien bien marché, quoi. Donc on s'est dit, putain, c'est cool, on s'est pas trompé, on va continuer là-dedans. Et le métro, c'était cool, ouais. Ces deux vidéos-là, c'est pas mal.
La vanne du métro avec le gaz semi-pressé dans les escaliers, je pense que j'y pense à chaque fois que je monte des escaliers et que je me dépêche un petit peu, quoi.
Ouais, c'était j'étais très content de cette vanne d'observation. Je me souviens à l'époque, même Kian, qu'aujourd'hui de Bref, m'avait félicité pour cette blague parce qu'il me disait ça c'est du kiff.
Et comme à l'époque c'était le tout début de YouTube, tu expliques dans le podcast de Cyprien 301 vues que tu pouvais proposer par exemple à Norman ou à Cyprien de faire une vidéo et le jour même vous tourniez. Mister V qui lui habitait à Grenoble dormait chez vous quand il venait sur Paris.
Exactement, tel un petit enfant, tel une petite biche égarée. On le recueillait chez nous, il dormait dans notre salon, c'était fou.
Qu'est-ce qui ne te manque pas de cette époque et qu'est-ce qui te manque de cette époque, le tout début de YouTube ?
Bah tu sais, c'est comme on est les gars de Love Story, quoi. Hein ? Très concrètement, on était ces gars-là, quoi. Genre on savait pas, quoi. On était juste dans l'instant, dans le kiff, il n'y avait pas de calcul, il n'y avait rien. Ça c'est fini aujourd'hui. Même quelqu'un qui commence aujourd'hui est dans le calcul. Parce qu'il est au fait de tout ce qui se passe. Tu vois, saison 2 de Love Story, ça y est, c'était mort. Déjà, les gens, ils commençaient à jouer avec les codes, les candidats et tout. Ils savaient déjà que ça allait buzzer, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait éventuellement faire ça, qu'il fallait essayer de faire ça, qu'il fallait tenter. Nous, on savait pas ce qu'il fallait faire. On faisait juste des blagues. Comme dans Love Story, eux, ils étaient comme ça, ils vont dans la piscine, tu vois. Ils savent pas ce qu'il faut faire, ils ont envie de baiser, ils baisent. Et en fait, bah, aujourd'hui, tu sais qu'il faut baiser. Donc, c'est pas du jeu. Mais c'est comme ça. Maintenant, tout le monde connaît les codes. Et nous, je pense que cette première vague, tu vois, Norman, Cyprien, Yvick, Hugo, Maxime Musca, même le Palmachou, enfin, on était juste là pour faire des blagues. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, avec Axel, on s'est remis, on s'est revu juste le making-of du Zapping Amazing 2. Donc, une sorte de tournée absolument lunaire qu'on a fait avec tous les gens de que je viens de citer, Kemar aussi, Natou, bien sûr, où on a fait des spectacles vivants tous ensemble, devant 2000 des salles de 2000 personnes.
Non, on va en parler, t'inquiète pas.
Ouais, quand tu revois ce making-of, c'était. On ne savait pas, en fait. On était là, on profitait de l'instant. Ça, je le regrette, mais c'était inévitable. Donc, en fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit Régis? C'est comme tout, tu vois. C'est inévitable. Donc ça, en gros, j'ai de la nostalgie. Et voilà, je sais plus c'était quoi la deuxième partie de la question.
C'était qu'est-ce qui te manque et qu'est-ce qui ne te manque pas de cette période.
Ouais, donc l'innocence, ça me manque. Et qu'est-ce qui me manque pas de tout faire soi-même. Ça me manque pas, putain. Ça, c'était fatigant. Et puis moi, j'adore les travails en équipe, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai intégré le bagel, c'était cette énergie où t'as l'impression d'avoir une équipe, un monteur qui comprend ce que tu fais, tu vois. C'est super agréable, tu vois, des techniciens, des ingé-sons, et ça te fait une bande, et ça, c'est trop cool. Quand t'es tout seul dans ton coin, c'est quand même usant, quoi. Quand ton ordi plante et qu'il faut que tu refasses tout le montage et tout, ça, c'est vraiment... ça, je regrette pas du tout, voilà. L'ordi qui plante, ça, crois-moi que ça me manque pas du tout, et ça nous est arrivé avec Axel de passer une nuit... ça me manque pas du tout. Moi maintenant, je fais mes petites vidéos sur Instagram, je les monte sur mon téléphone, donc je retrouve ce truc un peu authentique dès le début, donc ça m'a plu. Mais c'est des montages super simples. La première CS5 et tout, moi c'est bon, j'en ai bouffé. Je veux plus les voir ces gars-là. Je veux travailler avec un monteur en tête à tête, mais voilà, ça je regrette pas le truc de faire tout seul, ouais, ça je le regrette pas du tout. Maintenant, tout gérer, chapeauter bien évidemment, mais en équipe, ça c'est cool. Mais tout seul, non merci.
Après, en 2012, la ferme Jérôme, elle débarque sur MTV pour 40 épisodes. Mm-hmm. Et donc là, c'est la chaîne qui te contacte en fait.
C'est ça. En fait, c'était assez marrant parce que alors qu'on était passé à la ferme Jérôme dans le métro, la ferme Jérôme au kebab. On avait arrêté la ferme Jérôme qui parlait d'émissions, qui parlait de Pékin Express, qui parlait de Koh-Lanta, qui parlait de machin. Il y a MTV qui nous contacte, qui fait, bah nous, on aime bien la ferme Jérôme quand tu parles d'émissions de télé. Bah, je fais, ouais, mais frère, on vient d'arrêter, nous. Oui, non, mais t'inquiète. Nous, du coup, ce qu'on te propose, c'est de faire pareil avec des clips, sauf que on a les droits sur des clips, donc tu te feras pas striker sur YouTube. Et on fait, ok, donc on est parti pour 40 épisodes. On a arrêté nos boulots respectifs. Moi, à l'époque, je travaillais au standard de RMC, du coup, à Paris, pour payer le loyer. Axel travaillait dans une régie publicitaire et on a arrêté pour travailler avec MTV et on n'a plus jamais repris de travail alimentaire.
La classe, mais je pense d'ailleurs que quand Axel pose sa démission, il n'y a plus de réponse de MTV pendant 3 mois.
C'est ce qu'il avait dit, ouais. Moi, je m'en souvenais plus de ça.
Ce qui est un peu flippant quand même.
Ce qui est un peu flippant. En fait, ça me fait marrer de le voir flipper, c'est toujours hilarant. Un jour, j'espère que tu le verras, mais c'est très drôle de voir Axel stressé. Du coup, ouais, ça a été sans doute... Mais moi, je me souviens plus de cette sensation, donc c'est avec lui qu'il faudrait voir ça. Mais effectivement, il y a dû avoir un petit moment de flottement, comme qui dirait. Genre, merde, est-ce que finalement, on va pas devoir retourner bosser c'était... Mais non, ils ont fini par dire OK.
Dans ce nouveau format-là, donc tu l'as dit, vous parlez des clips, mais vous parlez d'un artiste à chaque fois. Donc, il y a eu Booba, Nicki Minaj, Section d'Assaut, il y en a eu plein, donc il y en a eu 40. C'est ces vidéos, tu l'as dit, qui vous ont permis de quitter vos boulots alimentaires, mais c'est surtout ces vidéos qui ont fait que ma copine est devenue super fan de toi.
Ah.
Et que grâce à ça, maintenant que je t'ai dans le podcast, ben j'ai obtenu un peu plus de respect de sa part sur mon podcast.
Ah, magnifique. Et tu as 2 enfants.
Pas du tout, mais...
Non. Grâce mais à toi, j'ai eu 2 enfants.
Pour une fois, j'ai pu dire, je reçois Jérôme Niel, et elle a fait quoi? Tu reçois Jérôme Niel, mais c'est trop bien et je suis un petit peu content, je t'avoue.
Ah bah, trop cool. Bah écoute, moi je suis ravi. Ça m'est arrivé. Alors moi, c'est pas le cas pour toi, mais une chose assez rigolote, c'est que quand j'ai fait des vidéos Instagram et tout, j'ai déjà eu, je crois, 2 ou 3 personnes qui m'ont dit, grâce à toi, j'ai rencontré mon amoureux, ou grâce à toi, j'ai rencontré mon amoureuse. Et ça, c'était plutôt pas mal comme sensation. C'est-à-dire que pour, je crois que pour deux d'entre eux, c'était sur du Rémi Coré. Tu vois, ils se retrouvaient sur du Rémi Coré à se partager un truc ou à répondre à une story que un des deux ou une des deux avait repris une de mes Corées et que j'avais moi repartagé. Et donc, quand je repartage, les gens la voient. Et tu vois, donc il devait y avoir une des deux personnes qui a fait « Hey, tu danses bien !» Et c'est parti comme ça, tu vois, un truc comme ça. Donc ça, j'étais assez ravi de créer des couples.
Ben, là, tu n'as pas créé un couple, mais tu as peut-être renforcé un couple parce qu'elle s'est dit « Waouh, en fait, ça marche son podcast. » Mais c'est cool.
Oui. T'as re-signé pour 5 ans.
C'est, j'espère, j'espère.
Bravo.
Ben, d'ailleurs, c'était même elle qui, au début de notre relation, m'a fait découvrir la ferme Géraud, que moi, je ne connaissais pas à ce moment-là.
Ouais.
Et elle m'a fait découvrir la vie avec sa vidéo préférée qui est la vidéo sur Section d'Assaut et sur Lana Del Rey.
Ouais.
Ah, parce que je pense que c'est impossible que je dise samedi soir sans qu'elle me dise les soirées du samedi soir, c'est pas le mardi matin.
Ouais.
qui était la chanson que tu avais refaite. Ouais. Et la chanson sur Lana Del Rey, je pense qu'on se prend des fous rires régulièrement à juste penser à ce tigre qui baille dans le clip, qui était quand même exceptionnel.
Faudrait que je la revoie parce que là, tu me remémore des trucs qui sont un peu enfouis, donc ouais, je ne regarde plus tout ça, mais c'est encore là, ça existe et ça fait encore rire des gens, donc j'en suis ravi.
Ah bah oui, je mettrai bien sûr le lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez aller redécouvrir ça, parce que c'est...
Avec plaisir, j'étais jeune, j'avais plus de cheveux, j'avais un peu plus de gras, je pense aussi, je mangeais mieux à la cantine, mais voilà, on se marrait. Et la petite info pour... aussi, c'est que la ferme Jérôme sur MTV, le générique, c'est Jules Fou qui l'a fait.
Oui.
Et donc, ça, c'est big up à Jules Fou, qui était, lui, pour le coup, qui était très fort en montage et en faisage de générique, par exemple, chose que je n'aurais jamais pu faire, puisque ça m'énerve tellement de mettre du temps à arriver à faire des choses, surtout en graphisme. Je déteste ça. Et donc, lui, il nous a fait un petit générique trop, trop cool.
Ouais, c'est vrai que le générique est vachement cool. Est-ce que toi, t'as un épisode préféré dans cette série-là sur MTV, un qui te marque encore maintenant ?
C'est peut-être le premier, je vais dire, là aussi, pareil, c'était Jay-Z et Kanye West, je pense.
Le premier, c'est David Guetta, je crois.
Ah ouais ? Mais en fait, nous, en fait, après, on l'a refait, mais le pilote qu'on avait présenté à MTV, c'était Jay-Z et Kanye West, qu'on a retourné ensuite par la suite, donc ça a une saveur particulière, celui-là. Okay. Parce que ça rassemblait plein de choses, on est allé le tourner chez moi dans le 78 avec mes potes, plus avec Axel, avec qui j'avais commencé les vidéos. Donc, c'était vraiment symboliquement, c'était trop cool.
Et il y a une anecdote que j'ai adoré entendre. Et du coup, je me dis, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est vachement sympa. Il y a un épisode où tu fais un épisode sur un rappeur, je ne reviens plus sur son nom, ah zut. Tu disais que c'est le rappeur qui bégayait.
Putain, qu'est-ce que j'ai dit comme connerie.
CFU.
Ah, CFU, ouais. CFU, ouais.
T'as fait une vidéo où tu es en rappeur et tu as quelqu'un qui est dans ton coffre en caleçon.
Ah oui, ah oui.
Et il y a la police qui est passée à ce moment-là.
Ouais. Et vraiment, il y a eu un moment de flottement énorme. On est en train de tourner ça avec quelqu'un dans le coffre en caleçon, avec, avec Mr. Tell, un vidéaste à l'époque qui s'appelait Mr. Tell. Et du coup, il est là. Et vraiment, ils s'arrêtent tout simplement. Ils sortent tous de la voiture et font « Bonjour, bonjour. » « Ouais, bonjour. En fait, on tourne un truc. On tourne un truc, je vous jure. Il est volontaire pour ça et tout. » Donc, c'était hilarant. Mais ils ont été très cool. Mais la situation était vraiment hilarante. On aurait dit un film, quoi.
Oui, parce que t'es un peu dans une cité. T'es en rappeur.
C'était à Bagnolet. Donc c'était la totale, ouais. Ils ont de dire qu'est-ce qui se passe encore, les gars, préparez-vous, préparez le taser parce que ça peut partir à n'importe quel moment.
Lui, il est en caleçon bâillonné dans le coffre, je le trouve tellement drôle.
C'est génial, c'est vrai.
Après, en parlant de choses folles, en 2012, c'est l'année du premier Zapping Amazing au Grand Rex, donc que tu as mentionné tout à l'heure, donc un spectacle avec plein de youtubeurs de l'époque. Est-ce que tu peux parler un peu de cette expérience que vous avez réitérée l'année d'après et qui est disponible d'ailleurs sur YouTube, le numéro 2 est disponible sur YouTube.
Ouais, bah ça c'était pareil, c'était comme je te disais tout à l'heure, c'était en lien pareil avec le vivre l'instant, avoir l'opportunité de faire un truc qu'on n'avait jamais vécu, aller voir les gens qui nous kiffaient dans les villes et leur proposer un spectacle qu'on a monté en 2 mois, qui est rempli de maladresse et de tendresse à la fois, quoi. remplis de voilà de blagues plus ou moins bonnes, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité. Et c'était vraiment incroyable. On avait un tourbus, donc un bus qui nous amenait de ville en ville où on pouvait dormir dedans. Enfin, c'était un rêve. On faisait des salles de 1300 personnes minimum. On a dû monter jusqu'à 2900. Enfin, c'était improbable. C'était la colonie. Et puis, c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie, je pense. C'est vraiment incroyable. Parce qu'on est tous jeunes, on est tous stressés. Enfin, c'est, ouais, de voir les images, gars, c'est un truc de ouf, quoi. C'est fou, c'était trop bien.
Mais c'est disponible sur YouTube, on t'y voit faire du stand-up pour la première fois, je pense, sur une scène.
Ouais.
Est-ce que du coup, à ce moment-là, tu t'es pas dit, ça t'a pas donné envie de continuer là-dessus ou...
Bah, un petit peu, mais je pense qu'à l'époque, j'avais finalement pas la motive. Et c'est surtout que je pensais, j'avais rien à raconter à l'époque, quoi. J'étais encore dans les vidéos. En tout cas, j'avais pas trouvé mon clown encore, tu vois. C'était des trucs très stand-up. Sauf à la fin, tu vois, ce qui me ressemblait plus, c'était la dernière partie de mon passage où je chantais une chanson sur les pâtes à la carbonara, tu vois, où je disais que j'adorais les pâtes à la carbonara. En vrai, ça, je pense que c'était vraiment, il y avait de moi, tu vois. Genre, ça, c'était une connerie. Et je pense que du coup, maintenant, mon spectacle, c'est quasiment que ça, en beaucoup plus travaillé, je dirais. Mais en gros, c'était un premier truc de tiens, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans mon spectacle. C'est une chanson sur quelqu'un qui aime les pâtes à la carbonara, finalement. Si je la ressortais aujourd'hui, je pense que ça étonnerait pas les gens, tu vois, parce que c'est plus moi. Tandis qu'avant, là, tu vois, avant, sur ce passage, je fais des blagues sur Christophe Maé et tout, dont j'ai pas honte, mais qui sont un peu plus classiques, tu vois, qui arrivent comme ça. Bon, alors voilà, j'ai quelques blagues, donc je vais faire quelques blagues. Tu vois, et donc là, aujourd'hui, là, mon spectacle, c'est vraiment... ça part dans tous les sens comme je l'ai imaginé, et donc, en vrai, une chanson sur des pâtes à la carbonara aurait pu être dans mon spectacle aujourd'hui, tu vois.
La chanson est drôle.
À l'époque, il y avait ce petit truc qui était sorti, mais sinon, globalement, j'étais encore très content de faire des vidéos, donc très content de l'expérience Zapping Amazing, mais j'ai continué les vidéos. Après, j'avais pas l'envie ni la maturité de me dire, tiens, vas-y, si je faisais un spectacle, je suis finalement pas mécontent d'avoir attendu 36 piges pour faire un truc... affirmé en tout cas par rapport à ce que je suis, quoi, tu vois. Là, j'ai pas trop de doutes dans ce que je propose là. J'ai des doutes si ça va faire marrer ou pas, mais en tout cas, j'ai pas trop de doutes par rapport à ce que je suis, c'est-à-dire est-ce que je suis en désaccord ou en accord total avec ce que je propose sur scène. Peut-être que si je l'avais fait à l'époque, j'aurais suivi les mouvances un peu, tu vois, mais quand tu te construis, c'est normal. Mais là, le fait de l'avoir fait plus tard, je sais qu'avec moi-même, je suis bien, tu vois. Je suis pas à dire, ouais, là, gars, t'essayes de faire genre. Là, je sais que ce que je propose, c'est wham, quoi. Mais d'ailleurs, quand j'ai commencé le rodage, il y avait quelques vannes que j'ai fini par enlever parce que je me suis dit, c'est drôle, tu vois, les gens, ils rient, mais c'est pas vraiment toi, quoi. Là, j'essaye que dans le spectacle, les gens, ils se disent, putain, j'avoue, c'est lui, quoi. En vrai, il n'y a pas de tromperie, quoi. Ouais, il est con. C'est ça, quoi. Je voulais pas qu'il y ait une vanne. Ouais, c'est gonnerie. Tu vois, j'essaye d'enlever un maximum. Et encore, ça se trouve, maintenant, il en reste encore un peu. Donc, le but, c'est vraiment d'arriver à un truc ou une performance ou dire, ben, ça, c'est lui. Et c'est... Parce que moi, je suis très attaché aux humoristes comme ça, quoi. Quand je sors de la salle, je me dis, ça, il n'y a que lui. Il n'y a que ce gars-là. C'est pas, cette vanne, elle ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre. Donc, moi, ça, c'est un peu mon objectif avec le fait de monter sur scène, quoi. C'est qu'on se dise, ouais, ok, c'est celui que je voulais voir.
Bah, tu m'as donné encore plus envie de voir ton spectacle.
Ouais.
Mais dans le même genre de personne.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Qui est vrai, que ça peut être que lui qui fait ces blagues-là. J'ai vu le spectacle Voir les gens de Baptiste Le Caplain.
Ah ouais, bah oui.
Qui est exactement ça, c'est lui quoi. C'est vraiment ouais. Lui dans la vie qui ferait ces mêmes blagues, je pense.
Ouais. Ouais, je te confirme, il en fait même peut-être encore plus dans la vraie vie.
Allez voir le spectacle Voir les gens également, qui est exceptionnel. J'ai pleuré 9 fois de rire. Sur le spectacle, j'avais mal aux yeux après. J'étais content de ne pas conduire pour le retour parce que j'avais ouais. Vraiment mal aux yeux. Donc voilà, c'est ouais, dangereux.
C'est une véritable machine de folie. Je vous le conseille aussi, puisque moi aussi je suis allé le voir. C'est vraiment, vraiment très, très drôle.
Alors après le Zapping and Music, tu es aussi contacté par Lorenzo Benedetti, le fondateur du studio Beagle, pour créer du contenu ouais. Humour sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a donné envie au tout début de tenter l'aventure?
C'est pareil, voilà, quand je te disais que j'en avais marre de monter mes propres trucs, c'était l'idée d'avoir toute une équipe avec des réalisateurs, des monteurs et d'autres comédiens qu'on connaît déjà, puisqu'on tournait ensemble dans les vidéos des uns et des autres. Donc là, la proposition, elle était quand même alléchante, c'est-à-dire on vous donne des moyens en plus et puis vous pouvez tourner plein de sketchs entre vous. Donc pour moi, j'ai pas hésité très longtemps. Donc, j'ai proposé aux potes et donc, on a formé une petite bande et on a commencé à tourner des sketchs. Et ce, pendant un an, et là, c'est pareil, c'est un souvenir. On est encore dans cette abondance de création, de fiction, qui maintenant est beaucoup plus rare sur Internet. Mm-hmm. Parce qu'on est sur du fun and play, mes couilles, là, je ne sais plus comment on appelle ça, là, fun and games. Fun, funny, bon, voilà. Enfin, tu t'enfermes une nuit dans un castorama, quoi. Voilà, maintenant c'est ça. À l'époque, c'était beaucoup de fiction, beaucoup de sketch, beaucoup de. Et donc, ça, c'était un âge d'or absolument incroyable, quoi. On se rassemblait, on écrivait, on tournait des trucs. Deux jours après, c'était monté, c'était diffusé. On était c'était des machines, quoi. Mmh. Et ça, c'était aussi un. On était rémunérés, on touchait un cachet pour le jour du tournage. Donc, c'était génial. C'était une année incroyable.
Mais d'ailleurs, tu as été acteur dans 60 épisodes, si on compte Studio Beagle et La Tour du Beagle.
Ouais.
Tu as été auteur dans 18 sketchs aussi. Tu en as réalisé certains, je pense, aussi.
Je ne sais plus. Non, je ne pense pas. J'ai réalisé un tuto, un court-métrage.
Mm-hmm.
Mais,
ah oui, c'est pas, ça. Pas,
voilà. Mais aussi donc, sur la chaîne du Studio Beagle. Donc ça
aussi.
Compte.
Donc ça compte, ça voilà. Va. Je suis sauvé.
T'es bien.
Quels sont les sketchs qui t'ont le plus marqué si tu devais en garder trois?
Trois, bah pareil, je garde toujours ma ligne directrice, Régis, du premier qui était Bagelfield, le premier du Studio Beagle.
Ouais.
Le premier, non, il y avait avant, il y avait même, oui, il y avait Bagelfield, mais il y avait aussi la parodie de Taken.
Oui.
Donc vraiment où je jouais un vieux où j'avais été grimé parce que je suis censé jouer le père de Marion Séclin. Donc c'est l'histoire d'un gars au téléphone qui appelle c'est Marion Séclin qui reçoit un coup de fil et c'est un méchant au téléphone et on lui dit on la menace tout ça et en fait il se trouve que c'est le papa qui s'amuse à faire une blague donc qui est interprété par moi. Donc ça, c'était une des toutes. Ça, c'est la première qu'on a tournée, je pense. La première. Donc celle-ci, elle est ancrée dans le marbre. Et aussi le premier tuto, forcément, le tuto Nail Art, également, qui était à l'origine. C'est fou, puisqu'à l'origine, c'était même une opération publicitaire pour auféminin.com. Car à la fin, si on regarde bien de cette vidéo, à la fin, t'as un petit bandeau publicitaire de auféminin. .com. En fait, on avait cette proposition et il y a cette idée de vidéo qui nous est venue à l'époque, du coup, avec Marion Séclin, de faire un tuto make-up avec un gars vénère parce que au féminin, ça marchait bien, ça nous faisait marrer. Quand au féminin a vu la vidéo, ils ont eu très très peur et en fait, le truc a cartonné, mais c'était très rigolo d'avoir un client qui était là et on leur a fait ce truc-là. Ils ont fait, voilà, ouais, là, les gars, qu'est-ce que c'est et tout. il refusait un peu le truc et en fait, le truc a cartonné. Donc, je sais même pas si à la fin ils étaient contents, mais c'est incroyable de se dire que ce truc-là est né d'une première opération du publicitaire, mine de rien.
À fond. Mais donc, on a Taken, on a le Nail Art et une
on
petite,
a une Nail Art et...
petite et troisième.
Tu avais un truc qui était cool aussi qu'on avait fait pour Fanta. Orangina. Orangina, je crois, qui était un gros court-métrage avec des gens du studio Bagel, mais aussi le Golden Moustache. Donc, c'était un peu avec Raph Descrac et tout. Ça s'appelait, oui, Erreur 404. Et ça, c'était génial parce que ça rassemblait tellement de comédiens issus du net et tout. Donc, on s'était marré de ouf. C'était un gros tournage. C'était vraiment, vraiment le kiff. Et voilà, si je devais là, c'est les premiers qui viennent comme ça parce qu'ensuite, il y en a plein d'autres que j'aime aussi. Hein. Mais voilà, ceux-là, comme ça, c'est quand même des trucs assez symboliques.
OK. Moi, j'en ai noté trois qui m'ont particulièrement fait rire. Il y a Déjà Vu, que je trouve incroyable.
Ouais, Déjà Vu, c'était avec le contrôleur des... Non, c'était quoi Déjà Vu ?
Le contrôleur des clichés dans tous les films, ouais.
Ouais, c'est ça, donc c'est ça.
Avec Ludovic.
Avec Ludo, ouais.
Qui est super drôle. Après, c'est du gros budget, il y a plein de scènes d'action. C'est super drôle parce qu'il y a tous les clichés des films, donc...
Cool.
Je la conseille. Il y a On est foutu, qui me fait beaucoup rire.
Ça, c'était aussi avec Ludo, c'est ça ?
Oui, vous êtes coincé, vous allez vous faire avoir par une équipe de SWAT, en tout cas des militaires, et du coup, vous essayez de vous tuer l'un l'autre.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
C'est très con, mais ça me fait beaucoup rire. J'ai vraiment pris un fou rire en regardant ça, et je savais pas me remettre, du coup. En plus, j'ai découvert hier en faisant mes recherches, donc...
Ah ouais ?
Oui, c'est pour ça que je l'ai mise dans la liste ici, parce que j'ai vraiment beaucoup ri. Ouais, alors que je la connaissais pas du tout.
Cool. Ouais, c'est très con ça.
Et le troisième que j'ai noté, c'est parce que c'est Studio Bagel aussi, c'est Phantom Force.
Ah ouais, bien sûr, je suis con, tu vois, j'aurais pu te parler de ça. Mais parce que moi j'étais dans Studio Bagel là. Mais effectivement, c'est Studio Bagel, mais c'est le Studio Bagel plus tard.
Oui, c'est beaucoup plus tard.
Moi j'étais encore dans. Moi, enfin, quand j'ai répondu à tes questions, c'était effectivement le Studio Bagel du début. Mais Phantom Force rentre dans mes plus grosses fiertés. Projet que j'ai mené à bien avec Adrien Méniel notamment et Robinson Latour aussi à la direction d'écriture. On l'avait écrit avec Adrien et ensuite avec Robinson aussi, travailler main dans la main, et ça c'est une de nos plus grosses fiertés. Je m'avance aussi, mais Adrien a dû te le dire, oui. C'était un truc, puisqu'on a levé les mêmes références là-dessus, sur cette parodie de série d'action des années 90, donc pour nous. Moi aussi, effectivement, ça rentre dans mon top 5 facile de mes plus grosses fiertés vidéoludiques.
On en a parlé longuement dans l'épisode avec Adrien Méniel, mais je trouve ça génial, Phantom Force, c'est tellement bien fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas une parodie, parce que vous reprenez tous les codes des films d'action des années 90, 90, et donc c'est tellement bien fait, et c'est super, c'est drôle, mais même s'il n'y a pas de vanne dedans, c'est dur à expliquer, il faut vraiment le voir, mais c'est incroyable parce qu'on a vraiment l'impression de regarder une série d'actions de l'époque, et c'est super drôle.
Ouais.
Allez voir ça.
S'il vous plaît. Si vous aimez en tout cas ce style.
Franchement, vous devriez. Alors les vidéos sur le studio Bagel, ça cartonne et ça t'ouvre les portes à deux gros projets. Le premier, c'est Groom Service, qui était d'abord une série de 4 vidéos pendant le festival de Montreux, où vous avez filmé avec Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer, Kian Kojandi, Guillaume Batz.
Exactement, qui était un petit programme court où je jouais un groom dans un hôtel et qui recevait les clients de l'hôtel, donc les clients de l'hôtel qui étaient des guests humoristiques, et donc il se passait des situations un peu farfelues et incongrues. Donc c'était un programme de 2 minutes à l'époque, à peu près.
Mais qui était très drôle.
Ouais, on s'était vraiment marré.
Et du coup, vous vous êtes dit, on va le proposer à Canal ouais. Plus pendant le festival de Cannes. Et ils ont OK, allons-y.
Ouais. Donc, une nouvelle salle de 9 épisodes.
Mais par contre, ça, j'ai essayé de les trouver. J'ai galéré.
Ouais. Je sais pas. Alors, ça doit être ça pour le coup. Ça doit être dans les serveurs de Canal. Mais effectivement, il doit en rester quoi ? Un trouvable, peut-être ? T'as trouvé des trucs ou même pas ?
Moi, j'ai pas trouvé.
Mais moi non plus. En vrai, okay. J'avais essayé il y a 2-3 ans. Et en fait, ça a disparu. Mais ça aussi, c'était trop bien. C'était vraiment. On avait tourné dans un hôtel à Paris, quand même. On faisait genre, c'était à Cannes, mais c'était à Paris. Et là, pareil, c'était des guests trop cool. Pio Marmaille, Fred Testo, Nicolas Bedos, Michel Larocque. Enfin, c'était vraiment trop cool. Richard Berry.
Et est-ce que tu arrives à ne pas être impressionné d'être comme ça avec des célébrités quand tu joues dans la série ou quand tu danses avec Jason Derulo sur le plateau du Grand Journal ou quand tu es l'interprète de Gary Oldman?
Alors, les happenings en plateau du Grand Journal, c'était beaucoup plus stressant qu'un enregistrement d'un épisode. Effectivement, où tu as le temps, tu peux le rencontrer en loge avant. Moi, parfois, je faisais des happenings là, justement. À Canal, je les avais même pas vus, quoi. J'arrivais sur le plateau, c'était la première fois, laisse tomber. Mais ça, c'est de l'adrénaline de fou aussi. Ça, c'est trop bien. Donc, toujours plus impressionné quand c'est en direct. Et sinon, avec les comédiens dans le groupe service, c'était vraiment du respect, du travail, un peu de stress normalement. Mais quand t'as Gary Oldman en face de toi, oui, c'est. Ou le gars qui joue Robocop, je sais plus comment il s'appelait là. Lui, j'ai mis mon pied sur son épaule et tout en impro.
Mais ouais, il t'a pris à la gorge aussi.
Ouais, il m'a pris à la gorge et tout. Après, il y a son agent ensuite en backstage qui avait dit « Mais c'est qui ce gars ?» et tout. Mais en fait, l'acteur en lui-même, il était très content. Il s'était prêté au jeu, tu vois. C'était galerie.
Avec quel acteur, en numéro 1, tu aimerais tourner?
Je sais pas si... Avec quel acteur En vrai, en France, j'aimerais trop... En France, je pense que j'aimerais beaucoup jouer avec Pio Marmaille.
Ok.
Parce que je trouve qu'il est... Ouf, j'adore cet acteur. Hors de France, c'est dur. Hein. Hors de France, c'est trop dur. Hein. Hors de France, en action, ça pourrait être Van Damme. Sinon, Jonah Hill, en ce moment, que j'aime beaucoup. Mais c'est dur. C'est vraiment dur de faire un... C'est dur. Tu pourrais m'en citer d'autres, je te ferais... Mais oui, mais lui aussi, j'aimerais bien. Mais on ne va pas y arriver, Régis. On ne va pas y arriver si tu m'en proposes pendant un comme ça. C'est un puissant fond de talent. Donc, il y en a forcément là. Mais voilà, là, je ne réfléchis pas trop et je te dis ça, voilà.
Ça marche.
Pio Marmaille, Jonah Hill.
C'est un bon choix. Hein.
C'est pas mal. Hein.
C'est pas mal. Franchement, je te le souhaite. Après, comme Canal+ était content de Groom Service, ils t'ont demandé ce que tu avais à proposer pour la rentrée de septembre. Et donc, vous proposez les tutos dont on a parlé juste avant. Donc, ouais. Un programme qui reprend les codes des tutos maquillage, mais avec un personnage complètement fou et très énervé, Camille.
Exactement.
Que tu tiens à merveille. J'adore ce personnage.
Donc
vous avez montré l'épisode du Nélar dont tu parlais.
Ouais.
Canal+ a dit OK, c'est parti
pour exactement.
Pour 17 premiers épisodes au départ.
Voilà.
Et donc
prolongé.
Et ensuite ça a été prolongé, oui. Et donc ton personnage, lui, il est complètement fou, ça part en cascade toutes les 3 secondes. Ouais. Ça vient d'où cette capacité que tu as à te lâcher complètement et à n'avoir rien à foutre de ce que les gens pensent?
Bah, je sais pas. Enfin, bah, déjà, j'aime vraiment jouer avec mon corps. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il peut y avoir quelques similitudes avec Jim Carrey ou quoi, tu vois. Mais en fait, j'ai toujours aimé bouger. J'ai toujours aimé bouger. Donc, forcément, quand il y a des cascades, je suis toujours très, très content d'essayer de me faire mal pour plus d'authenticité. Et j'adore hurler. Donc, là, c'était un moyen de me défouler là-dessus. Donc c'était parfait et je pense que les gens, ils aiment bien voir un gars qui explose comme ça, peut-être pendant 2 minutes, peut-être qu'inconsciemment ça leur fait du bien, j'imagine, c'est ce qu'on m'a dit de temps en temps. Donc ça, oui, c'est bien évidemment un perso que je garderai toujours dans mon cœur.
Ben moi, c'est mon perso préféré, franchement. À chaque épisode qui sortait, j'attendais l'épisode de la semaine d'après, j'étais éclaté à chaque fois. Je les ai tous re-regardés pour préparer l'émission. C'est juste incroyable, ça me fait tellement rire. Je me rappelle les avoir refaits à la maison quand j'étais chez mes parents, qui se demandaient ce que je faisais du coup. Parce que quand t'arrives dans le salon en disant « Salut bande de salopes !» C'est particulier.
Non, c'est vraiment chouette de faire un truc comme ça où des années plus tard, t'as toujours des gens qui me disent « Salut bande de salopes !» quoi. Toujours aujourd'hui. Ou « Je vous aime putain !» Ou tu vois, donc d'avoir travaillé là-dessus. Donc comme j'ai dit, on a commencé un peu... Enfin, l'idée venait... tout au début, donc d'une opération publicitaire, on a mis en place, voilà, avec Marion Séclin et moi. Ensuite, on a écrit avec donc Axel, Monsieur Poulpe et Vincent Tirel, parce ils font aussi partie, mine de rien, de ce projet, de la création. Et que tu vois que des années plus tard, il y a des gens encore qui te demandent, alors est-ce que t'en referas? Bon, alors ça, la réponse est non. Voilà, avant, bon, autant, pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour parce que j'aime bien que le truc soit voilà, il est très bien là où il est. Et si on en refait, on peut risquer d'abîmer un peu la belle aventure que c'était, quoi. Donc pour l'instant, ce n'est pas du tout au programme, tant qu'il n'y a pas une idée folle qui émerge, nouvelle, en tout cas avec ce personnage, il n'y aura jamais rien. En plus, je vieillis, hein, je commence à avoir des courbatures et tout. Là, j'ai une petite tendinite à l'épaule, donc putain, si je reprends le perso, il va falloir que je fasse des entraînements et tout. Mais oui, ce personnage, il est en moi et c'est trop cool qu'il y ait des gens encore aujourd'hui qui re-regardent, qui repassent des extraits, qui refont des doublages. J'ai vu sur TikTok qu'il y a plein de doublages, en fait, oui. De tutos, tu vois. Et je fais, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Donc ça fait plaisir.
Un fond. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu le programme, j'ai noté quelques petits trucs que tu as fait dans l'émission, comme circoncire une piñata au katana, te battre avec une poule, scalper un Amérindien, faire une dictée à un SDF, cracher le cerveau de Alain Delon, construire un deltaplane avec les doigts dans le cul, lécher une tête de veau, te disputer avec du raffia, ou encore monter sur une échelle en robe à paillettes avec Lambert Wilson qui t'aide et l'embrasser.
Ouais, putain, ouais, ça c'était oh, putain, incroyable.
Rien que ça.
Ouais, c'est pas mal, ouais, merci, c'est une bonne. C'est un très très bon résumé. Je vais enregistrer ton passage et je vais la mettre en sonnerie.
Ça marche.
Quand on m'appellera, voilà, ce sera tout le descriptif que tu viens de faire. Ça me paraît bien.
Ça me fait exploser le cerveau en fait de me dire, mais c'est fou, du début à la fin. Je crois que d'ailleurs le premier épisode, je sais même pas si j'ai ri. Parce que j'étais en blocage de « mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Et après, d'office après, je les ai regardés, j'ai bien ri, mais je crois que le premier, c'était trop fou pour moi. Mon cerveau a fait « attends, qu'est-ce qui se passe ?»
J'adore avoir les champs à l'usure. J'aime bien quand on me dit au début, et après, oui, donc je t'ai eu à l'usure, quoi.
Bah, j'ai regardé l'épisode une première fois, mon cerveau a bugué, puis je l'ai regardé tout de suite, et là j'ai ri, tu vois. Mais il a fallu un petit temps d'adaptation pour mon cerveau, ouais, qui est un peu lent.
Mais je l'accepte.
Ça va alors. Mais d'ailleurs, comment ça se passait un peu pour créer un épisode comme ça? Quelle était la part d'impro, quelle était la part d'écriture? Comment vous prépariez ça? J'ai du mal à visualiser une session d'écriture pour un épisode des tutos.
Alors bah généralement je fais toujours le premier jet, tu vois. Je choisis le thème, on avait quand même listé des thèmes avant. Je choisis le thème, je me renseigne et je fais vraiment en premier jet avec les vannes qui sortent tout ça, et après tu avais une passe de poulpe dessus, si je me trompe pas, une passe de Vincent, tu vois, qui rajoutait des petites vannes, qui proposait des trucs et tout, et Axel aussi qui réorganisait tout ça en disant ouais, peut-être ça plus bas, plus haut, plus machin. Et en gros, c'était comme ça. Et ensuite, sur le plateau, toujours une petite part d'impro, genre, je vais dire n'importe quoi, un pourcentage de 20% d'impro que je rajoutais, des gestuels, des machins, des trucs, dans la limite des places disponibles, bien sûr, des moyens disponibles. Parce que je disais, hey, putain, il pourrait pas y avoir un dragon, là? Ben, oh, attends, dans une seconde, on va réfléchir. Mais en gros, c'était ce genre de structure-là.
Mais même niveau matériel, il y avait quand même quelqu'un à qui tu devais dire, bon, alors pour le prochain épisode, on a besoin d'une tronçonneuse, d'un...
Ah oui, c'était la fête, c'était Bubu, que je salue, mais elle était parfaite. Et en vrai, du coup, on avait cet accessoiriste qui faisait pour de vrai les tutos. Parce que tous les tutos, tout ce que je fabrique, tout ce qu'on montre, c'est faisable. C'est un bordel de ouf, mais en fait, si tu suis tout... t'enlèves toutes les vannes et tu suis les pures étapes de tuto, tu peux le faire. C'est-à-dire, oui. On avait à un moment une lampe jouet. Donc, c'est une lampe avec plein de jouets collés entre eux et peints en bleu, tout ça. Elle l'a vraiment fait. Donc, ensuite, je l'avais, je l'ai eu chez moi, je l'ai ramené chez moi. Et donc, c'était des choses faisables. Tout ce qu'on fait est quasiment faisable, à part un ou deux épisodes qui partent en couille, comme la première fois où je fais l'amour à un crocodile gonflable. Bon, après ça, tu peux le faire, mais c'est un autre délire. Mais sinon, tout était faisable. Donc, c'était ça aussi. Moi, je voulais que tout soit quand même faisable, que ce soit des grosses conneries, mais en vrai, tu peux le faire. Et il y en a certains qui l'ont fait. Il y avait aussi... ils nous envoyaient, ils m'envoyaient des photos, genre un mug cake, un cake que tu fais dans un mug. Oui. Il y en a qui l'ont fait, qui m'envoyaient. Il y en a qui envoyaient des cupcakes, les rainbow cupcakes. Enfin, il y en a qui faisaient certains des tutos, que ce soit alimentaire ou objet. Il y en a qui le faisaient. Donc, ça faisait très, très plaisir à voir.
Moi, j'ai un ami qui avait fait les chaussures Galaxy.
Ouais.
Le mug cake, c'est là-dedans que j'ai découvert et depuis, j'en fais régulièrement.
Voilà. Bah. Superbe.
Mais est-ce que toi, tu as un épisode coup de cœur qui vraiment t'a marqué en particulier?
Celui qui était bien barré quand même, il me semble, dont l'idée était venue de Vincent Tirel d'ailleurs, c'était la première fois où je fais vraiment une pseudo-position avec un crocodile gonflable. Ça, c'était très drôle, mais je pense que quand on est arrivé dans les courts-métrages, ça m'a encore plus plu.
Okay.
On a fait des courts-métrages, et en fait, notamment le dernier. Le dernier épisode réalisé par Ludog, bon, tous étaient réalisés par Ludog, mais le dernier épisode, l'œuf mayonnaise, où je pars en quête d'un œuf, celui-là, je pense que c'est mon préf.
Moi, j'en ai noté plusieurs parce que j'ai pas su choisir. Il y a le tuto sur les costumes de Star Wars qui m'éclate. Ouais. La piñata, qui est vraiment super drôle. Les dessous de verre et celui sur l'esprit canal.
Ouais, c'était bien ça aussi. Ouais, il était un peu spécial, mais il était cool, ouais. On s'était bien marré, hein. On s'était bien marré. Les dessous de verre, putain. Je me souviens j'ai fait un truc sur les dessous de verre, mais alors qu'est-ce qui s'y passe? Putain, je me souviens plus.
Ben, c'est le dessous de verre que tu fais qui est avec un personnage de Mario dessus, mais je ne sais plus te dire qu'est-ce qui m'a.
C'est Todd, non? C'est pas Todd?
C'est Todd, oui.
Ouais.
Mais je ne sais plus te dire ce qui m'a fait marrer, mais c'est les vannes dedans. Des fois, ça peut partir dans tellement tous les sens.
Ouais.
J'ai regardé tous les épisodes ici et je me suis dit, bon, à quel épisode j'ai pleuré de rire le plus? Ben, j'ai noté celui-là.
Ok, bah, très bien, bah, merci beaucoup.
Donc, je mettrai bien sûr, encore une fois, en lien en épisode. Tu as fait beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de liens dans cet épisode. Tu as aussi fait deux formats plus longs avec Camille chez le médecin et le Noël de Camille qui sont encore plus barrés parce que tu parles dans des délits impressionnants. Et tu avais même dit que tu avais dans l'idée de faire un Camille dans l'univers de Star Wars.
Ouais, qui a écrit, hein, qui a existé. Enfin, il est écrit depuis des années et on l'a jamais tourné parce qu'il y avait plusieurs choses. Déjà, l'univers de Star Wars, il faut savoir comment le tourner. Imagine, tu te prends des. On voulait pas se prendre un procès, tu vois. On n'avait pas tous les détails, mais être dans l'univers Star Wars sans se faire attaquer, donc je pense qu'il faut faire un peu des likes Star Wars, tu vois, des genre des Star Wars likes. Et tu vois, sans parler de personnages, ça se trouve, faut pas les citer, donc c'est compliqué.
Ouais.
Et je pense qu'on a écrit un truc qui vaut beaucoup d'argent. À l'époque, je crois que je l'ai écrit avec Poulpe et Benjamin Lacaze aussi, avec qui j'ai écrit les deux autres courts-métrages. Et je pense que c'était un truc improbable. Faudrait que je le retrouve. Mais quand j'ai donné ça à Canal, ils ont fait bah là les gars en budget, on est en train d'exploser le truc. Alors donc là on est sur Tatooine, oui d'accord. Donc c'est-à-dire comment on fait? Bah les gars, je sais pas, nous on écrit des douces, tu vois. Mais je crois que c'était un truc qui se finissait en comédie musicale. Ouais, c'était improbable.
Un peu. Je refais l'appel aux milliardaires. En fait, dans le podcast, souvent il faut savoir que le podcast est écouté essentiellement par des milliardaires.
Ouais.
Et donc, dans plusieurs épisodes, je leur demande du budget pour pouvoir réaliser des projets. Donc, par exemple, la suite de Phantom Force et maintenant Camille dans l'univers de Star Wars. C'est parti. Vous pouvez sortir la carte bleue. Voilà. Peut-être qu'un jour, il y a des milliardaires qui écouteront le podcast et qui financeront les projets des invités ou le podcast, parce que vous pouvez financer le podcast aussi. Faites-vous plaisir.
On est là.
Et pour terminer avec les tutos, tu terminais chaque épisode en disant deux mots. Style tendresse et chocolat, je vous aime, putain.
Ouais. Ouais.
Alors, j'ai un mini-jeu pour toi. Je vais te proposer des fins en deux mots et tu vas me dire si tu les as dites ou pas.
Ouais, vas-y. Vas-y.
Alors, on commence avec chatouiller noisette.
Chatouiller noisette. Ça, j'ai dû le dire, ça, non?
Oui,
ouais.
Tu l'as dit.
Ouais.
Câlin et syphilis.
Putain. Attends. Non, je dirais non.
Tu dirais non, tu es sûr?
Oh, oui, je suis sûr, non.
tu as raison, tu ne l'as jamais dit.
Yes.
Est-ce que tu as dit herpès et cassonade?
Oh putain. Non, je ne l'ai pas dit.
Et si, tu l'as dit.
Merde.
Tu as dit herpès et cassonade, j'ai beaucoup aimé.
Herpès et cassonade, j'ai perdu.
Salami et sole meunière?
Ouais.
Oui, tu l'as dit.
Ça m'étonne, j'adore le nom sole meunière.
Ok, c'est vraiment des mots que tu affectionnais à chaque fois.
Oui, voilà, mais chacun pouvait. Hein. Poulpe en a sorti, Vince aussi. Enfin, vraiment, Axel aussi se faisait plaisir là-dessus. Donc voilà, on en faisait tous. Et d'ailleurs, la formule de base, je crois que c'est Poulpe qui l'a trouvé, tendresse et chocolat, il me semble. Dans la première, je crois.
J'en ai encore quelques-uns si ça te va.
Ah, vas-y.
Radis et patchouli.
Ouais.
Eh non, ça vient de mon cerveau.
Ah, j'aurais bien dit, ça j'aurais bien aimé le dire.
Le suivant, c'est garde à vue et matraque dans le cul.
Non, impossible. Non, attends. Putain, j'ai dit ça.
Tu as dit ça, oui.
Ouais, putain. Ça dénonce.
J'ai beaucoup ri à celui-là.
Ah, putain.
Est-ce que tu as dit Titi et Gros Minet?
Non. Si?
Non, tu n'as pas dit Titi
non,
et Gros Minet.
Non.
Est-ce que tu as dit Tic et Tac?
Ah, putain. Comme ça, à la fin, non. Je l'ai dit,
si,
j'ai parlé de Tic.
T'as dit Tic et Tac.
Je vous aime, putain.
Tic et Tac, je vous aime, putain. Ouais.
Putain, salaud. Ok.
Je me les suis tous refaits, hein, donc fallait bien que je rentabilise avec un petit jeu, tu vois.
Non, joli.
Est-ce que tu as dit Roblochon et tabouret?
Ouais.
Non.
Salaud, j'aurais aimé le dire.
Tu as dit Polochon et tabouret.
Salaud, le piège.
Et enfin, est-ce que tu as dit Quicholardon et Paris-Brest?
Putain, oui.
Oui, tu as dit Quicholardon et Paris-Brest.
Putain, c'est n'importe quoi. Ok. Très bien, très rondement mené.
Merci bien. J'aime bien faire un petit truc à chaque fois adapté par rapport aux invités quand je peux. Voilà. Ensuite, les tutos, ils s'arrêtent. Et pareil, Canal+ vous demande qu'est-ce que vous avez à proposer pour la rentrée. Et donc là, ouais, vous proposez la mini-série Speak Ring qui est diffusée ouais, quotidiennement dans le Grand Journal. Donc, c'est-à-dire des épisodes de 1 minute 20 dans lesquels tu utilises le programme télé des autres chaînes comme base pour faire des vannes et des parodies. Comment t'as vécu cette expérience qui était la quotidienne, donc de produire un épisode tous les jours?
Très dur. Quand tu dois faire des blagues tous les jours, c'est un exercice formateur, mais moi que je ne referais plus en tout cas. C'était très cool, je ne le regrette pas, mais c'est très dur. Et en fait, tu te rends compte que, bah, en tout cas moi, je ne peux pas être drôle tous les jours, quoi. Quand tu as un truc comme ça, tu sais qu'il va falloir être fort. Et assumer quand ce sera un peu moins drôle. Donc, en fait, c'est pas très agréable comme sensation générale.
Oui.
Tu as de se dire, ah bah aujourd'hui, on a fait ce qu'on a pu. Ouah, c'est chiant quand même.
Mais des fois, te disais, j'aurais pu faire mieux.
Bah ouais, mais on n'avait pas. On était, il y avait 1000 vannes. Enfin, on était, putain, on faisait le max. Mais tu sais que tu pourras pas être drôle tout le temps. Tandis que quand on faisait un tuto par semaine, on mettait le max, tu vois. Et on faisait souvent mouche. Et on a, c'est assez uniforme en termes de ce qu'on voulait montrer, en tout cas aux gens. Mais quand tu fais tous les jours, tu te rends compte que l'exercice, il est fou. Donc, tous ceux qui ont des chroniques en radio, tous les jours, souvent, comme ça, enfin, c'est vraiment un sacré boulot, quoi. Il faut un sacré courage pour aller au charbon comme ça régulièrement, parce que c'est souvent des exercices de radio, mine de rien. Tu vois, même à l'époque, le SAV d'Omar et Fred, bah, t'en avais qui étaient bien en dessous, quoi. Nous, on se souvient des cultes, mais quand tu regardais tous les jours, bah, de temps en temps, il y en avait qui étaient quand même relativement en dessous. Et c'est normal, quoi. Tu te rends compte quand tu dois écrire tous les jours, c'est très dur.
Mais en même temps, ceux qui sont un petit peu en dessous, j'ai l'impression qu'on s'en souvient pas. Tu vois,
ouais,
on se rappelle que des cultes.
C'est exactement ça. Mais toi, quand même, quand tu y es tous les jours, bah, ça, je pense que ça peut avoir un impact, quoi. Donc moi, j'ai jamais regretté, mais je sais que j'y retournerai pas, ou sinon avec une armée de 15 auteurs, tu vois, à l'américaine.
Ah ouais, parce que là, c'était toujours la même équipe à l'écriture. Donc,
toujours la même équipe, on était trois.
Bah, c'était Axel Malivernet, Robinson Latour et Ben Lacaze,
majoritairement
en parlant. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont ajoutés, mais...
Il y en a d'autres qui sont passés, mais c'était eux les majoritaires, et c'était assez... c'était... À un moment, t'es comme ça, t'es à la chaîne et tout, et c'est une sensation... Quand tu fais des blagues qui est compliqué, en tout cas pour moi, c'est pas ma meilleure sensation, quoi.
Okay.
De dire, ah, faut que ça sorte, les gars, c'est comme ça là.
Est-ce que vous avez travaillé quand même de la même façon, ou là c'était plus un épisode par personne, ou
Ça dépend. Il y avait de ça. Il y avait parfois on faisait des sessions ensemble, parfois on se dispatchait les épisodes, parfois chacun faisait ce qu'il avait à dire dans l'épisode, et à la fin on avait 15 vannes, il fallait qu'on en garde 5. Donc il y avait pas de, c'était à peu près ça, il me semble, de mémoire.
Et je pense que tu as compris, mais j'aime bien demander, c'est quoi ton épisode préféré? Est-ce qu'il y a un épisode de Speakerine en particulier qui t'a marqué?
Je pense que c'était la genèse de Balek. Et ça s'appelait Tout peut arriver, je crois. un épisode qui s'appelle Tout peut arriver.
Oui,
où
oui.
On faisait une parodie d'émission qui partait en couille.
Ah, donc, ok, je savais pas que c'était dans Speakerine, ça aussi.
Ouais.
Ok.
Il me semble. Si, si, en fait, parce que c'était. On avait parodié une émission sur M6 qui s'appelait Tout peut arriver, je crois. Et donc, on avait fait l'émission où vraiment tout peut arriver, il se passait n'importe quoi. Et je pense que ça a commencé dans Speakerine, vraiment. De mémoire.
Moi, j'ai noté comme épisode préféré l'épisode qui s'appelait sur le film Maléfique, parce que tu donnes la parole aux méchants dans les films, et donc il y a le, tu donnes la parole à, au T-Rex dans Jurassic Park et à l'iceberg dans Titanic. Ça m'a fait mourir de rire.
Ouais, c'était rigolo. Mais oui, là, j'ai vu, il y a Tout peut arriver, t'en as même trois. On en a fait trois sur Speakerine. Donc vraiment, où je fais un vieux présentateur nul, et c'est vraiment. Putain, c'était il y a 6 ans, putain. Et ensuite, je vois en dessous, il y a Tout peut arriver, le premier Tout peut arriver au studio Bagel qui lui fait 6 minutes. Et ensuite, tu as Balek.
Ok, voilà, moi c'est ça. J'ai vu que le Tout peut arriver du studio Bagel de 6 minutes.
Voilà,
quoi.
Ouais.
Bah, d'ailleurs, on y arrive parce qu'en 2016, tu animes Balek, donc une émission parodique des jeux télévisés que j'adore aussi.
Ouais, ça, c'était, ça a été beaucoup, beaucoup de rigolades.
C'est tellement absurde, c'est parfois très con, mais dans le bon sens du terme, dans le sens c'est tellement con que tu meurs de rire, quoi.
Ouais, ça, on s'est vraiment marré, c'était trop bien. On a écrit ça avec Ben Lacage, justement, avec qui j'avais écrit des courts-métrages, des tutos et Speakerine, et on s'est vraiment, on a tout foutu ce qu'on voulait en 8 épisodes. Vraiment, c'était génial.
Et comment est-ce que vous créez cette émission? C'était, vous regardez des émissions télé, vous vous dites, ah, ça serait marrant de faire ça, ou alors avez...
On a même fouillé dans nos souvenirs, en fait.
Voilà.
Tu vois, de codes d'émissions télé. Et on a mis tout, on a tout mis, sans aucune retenue. Donc c'était vraiment, on s'est vraiment beaucoup marré.
Ouais, je crois que l'épisode que j'ai préféré, c'est l'épisode où tu, en fait, n'accueilles que des invités pendant toute la durée de l'épisode. C'est le gag est le plus long du monde, mais ça me fait tellement rire.
Ouais. C'était vraiment très con. C'était très con.
Je suis pas partisan de la phrase qui dit que les blagues les plus courtes sont les meilleures. Moi, des fois, quand ça dure pendant 3 heures, ça me fait rire.
Oui, donc, tu risques... C'est ça. Le spectacle te plaira, je pense.
Bon, bah, décidément.
Moi aussi, je suis vraiment dans ce... Donc je te dis, j'aime en fait, j'adore faire rire les gens à l'usure. En fait, je trouve que c'est un rire particulier, tu vois. Où les gens font ouais, bon, ok, oui, d'accord. Et non, mais c'est sérieux, il abuse. Et voilà. Et enfin, ça c'est un truc moi qui me plaît, quoi. Tu vas voir, ça va être long, gars. Ça va te faire rire, j'en ai rien. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, ça me fait. Ça, j'adore ce type d'humour, quoi. L'humour de répétition, l'humour d'usure, c'est quelque chose que j'adore.
Bah, je vais être décidément très client de ton spectacle, à mon avis.
J'espère ne pas te décevoir.
Bah, je ne pense pas, t'inquiète pas. Pour le moment, tout ce que tu as fait m'a fait rire. Donc,
bon, ce serait une première. Il faut une première à tout, hein, que ce soit un fiasco pour toi.
Je ne sais pas si je viendrai te le dire directement après, mais voilà. Mais pour Balek, quelles étaient tes inspirations principales en tant qu'émission télé? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup du big deal.
Ouais, c'est ça. C'est un big deal survitaminé. Les costumes et tout. Donc c'est vraiment, c'est ça. C'est un big deal survitaminé. Et après, on prend toutes les refs d'émissions plus ou moins sérieuses et on les twist, on les tord, on fait plein de jeux qui nous paraissent très drôles.
Donc ça, enfin, j'avais vu juste.
Exactement, ouais. Totalement big deal à la base.
Après, en 2016, tu as ton premier rôle au cinéma dans L'Idéal de Frédéric Becbédé, puis dans Rupture pour tous d'Éric Capitaine, dans Le Manoir en 2017, dans Love Addict en 2018.
Ouais.
Je suis désolé, mais je n'ai vu aucun de ces films. Comme je t'ai dit, je ne suis pas très cinéphile.
Et c'est pas grave, tu as le temps.
Est-ce que le cinéma, c'est vraiment le gros objectif pour toi?
Ben, oui et non, c'est-à-dire que c'est un checkpoint en tout cas, ouais. C'est un truc où je pense qu'à terme, je me sentirais bien là-dedans. C'est, j'adore ça, donc oui, on peut dire objectif, mais ça ne veut pas dire que j'arrêterai d'autres choses. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus régulièrement en tout cas que par-ci, par-là, un petit rôle par-ci, un petit rôle par-là. Si je pouvais tourner des films toute ma vie, bien sûr que je le ferais, quoi. Et Inch'Allah, j'espère que ça arrive.
J'espère, je te le souhaite encore une fois.
ouais, mais bien sûr, ouais, le ciné, tourner en fait, tourner sous n'importe quelle forme. Mais là, comme j'ai déjà bien usé Internet, faire du cinéma pendant des années me plairait beaucoup.
Quel est le rôle que tu as interprété, que tu as préféré interpréter pour le moment, ou que ça a été le plus gros challenge peut-être?
Qu'est-ce que je dirais? Au cinéma au cinéma, t'as aussi le premier, ça aussi, c'est des symboliques, quoi. Le manoir, j'ai adoré parce que jouer un mec un peu relou, un peu casse-couille, donc ça me faisait marrer. Et puis c'était avec les potes, c'était notre premier film à tous, enfin notre premier film de bande où on avait un, tu vois, c'était pas juste comme dans L'Idéal où j'ai une scène qui était trop cool aussi, un très bon souvenir. Mais là, on était entre potes, c'était un film choral, c'est un truc qui restera à jamais dans ma mémoire, ça c'est sûr. Les autres, je m'en souviendrai aussi, bien sûr, mais ce manoir-là, il y avait quelque chose de savoureux à dire, putain, on vient du net, maintenant on fait notre film au cinéma. C'était que Marc avait écrit ça, qui était à l'origine de tout ça, et c'était un superbe cadeau qu'il nous avait fait de jouer dedans.
Après, en 2018, tu tournes Phantom Force, dont on a parlé déjà tout à l'heure.
Ouais.
Puis tu tournes la série Groom, qui est une idée originale de Axel Malivernet, écrit exactement, avec Robinson Latour, Florent Bernard, Adrien Méniel, et dans lequel tu joues le rôle principal, celui de William, le fils d'un milliardaire qui doit remplacer le groom qu'il a blessé, s'il veut pas perdre son héritage.
Ouais, c'est donc une extension du programme court Groom Service qu'on avait commencé des années auparavant, où maintenant, effectivement, on lui a trouvé une histoire que tu viens de dire très exactement là, à l'instant.
Ben, la série est vraiment top. Elle est maintenant disponible gratuitement, les deux saisons sur YouTube. C'est deux saisons de 10 épisodes chacun, 10 épisodes de 22 minutes. Ça se binge-watch très facilement et très agréablement.
Merci.
Comment toi, tu as vécu cette expérience d'avoir en plus le rôle principal dans la série?
C'était génial. En fait, pareil, là, c'est dans la continuité un peu de ce que je te disais pour le manoir. Ça, c'était encore avec des nouvelles personnes que j'ai rencontrées par la suite, comme Adrien, Vincent, Constance. Donc ça, c'est les acteurs de la série. Nassim, c'était vraiment... Là, c'était notre plus long tournage à tous. Donc ça, c'était 2 mois de tournage, quasiment, dans un hôtel, à tourner. Donc là, pareil, esprit de colonie, détente, en famille... réalisé aussi par Théodore Bonnet, qui était un réalisateur du Bagel, donc vraiment on se connaissait tous. C'était avec eux principalement aussi des équipes du studio Bagel. Donc c'était un énorme kiff que de faire ça pendant 2 saisons, quoi. C'était génial de se retrouver pour la saison 2, c'était incroyable. Et en plus, quand tu crèches sur le lieu de tournage, et que le lieu de tournage est un hôtel 5 étoiles, laisse-moi te dire, mon petit Régis, que c'est très agréable.
J'avoue. Mais j'ai posé la question à Flaubert, j'ai posé la question à Adrien Méniel, que j'ai tous les deux reçus dans le podcast. Toi, quel serait ton épisode préféré des 2 saisons?
Moi, mon épisode préféré des 2 saisons, je me demande si c'est pas le... pour la saison 2, c'est les scouts, là. Celle où on part, enfin, celle où on est dans la forêt. Enfin, les scouts, je dis les scouts. Enfin, ça s'appelle pas les scouts, mais je sais plus comment il s'appelle cet épisode. Mais c'est un épisode hors de l'hôtel. Et pour la première saison, c'est hôtel versus hôtel, là. C'est quand on fait les Olympiades, les hôtelliades.
Les hôtelliades, ouais.
Ouais, voilà, je dirais ça. C'est très choral. En fait, j'aime les trucs chorales où il y a des nouveaux persos et tout. Et dans la saison 2, pareil, il y a des nouveaux persos. Il y a Benoît Moret, il y a Jenny Tellier qui joue des scouts complètement tarés. C'est ce genre d'épisode que j'aime.
Ok. Ben, moi, j'avais noté que mon épisode préféré, c'était l'épisode dans la forêt. Mais... ouais. C'est en très grande partie dû au jeu de Vincent Tirel qui me tue à chaque fois.
Ouais, bien sûr. Absolument génial.
À fond.
Je me souviens que celui-là, je l'ai écrit avec Robinson, et cet épisode-là. Bien évidemment, quand on écrit pour Vincent Tirel, ça donne lieu à toutes les possibilités. Donc, on se retient jamais quand on écrit pour Vincent Tirel. Ça, c'est cool. On se dit, putain, là, il pourrait faire ça, il va être parfait. Donc, s'il t'a fait rire, c'est que le contrat est rempli, Régis.
Mais le contrat est très bien rempli. Après, en 2019, tu as ton premier rôle principal dans le film La Grande Classe de Rémi Four et Julien Ward, qui est disponible sur Netflix. Ouais. Donc, le petit pitch de départ, c'est deux meilleurs amis d'enfance, toi et Ludovic, qui sont des anciens souffre-douleurs de leur école et qui décident de retourner dans leur ville natale pour participer à une soirée d'anciens élèves, avec dans le but d'essayer de montrer qu'eux ont réussi dans la vie et qu'ils ne sont plus les losers qu'ils ont été. J'ai vraiment beaucoup ri dans le film, particulièrement la scène d'où il y a avec la voiture, je veux pas spoiler pour les gens qui ne l'auront pas encore vu. Et j'étais surpris de te voir dans un rôle de gars timide, discret, qui manque de confiance en lui, parce que je trouvais que tu le tenais vraiment super bien. En tout cas, c'était.
Ah, merci, c'est gentil.
Super crédible, et j'ai trouvé le film super, super, super. Voilà, j'ai pas d'autres adjectifs, désolé. Je manque de vocabulaire, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé.
Merci, merci beaucoup. Bah, ça aussi, en vrai, c'est une autre grosse expérience dans ma vie au cinéma, parce qu'effectivement, c'était vraiment premier rôle. Je partageais l'affiche avec Ludovic, on était tous les deux premier rôle là-dedans. Donc là aussi, c'était une équipe avec d'autres acteurs que j'avais déjà plus ou moins rencontrés, mais on était vraiment une bonne bande. Et ça s'est aussi super bien passé. Donc ça reste un gros souvenir avec des réalisateurs qui te font confiance, qui te choisissent pour un rôle que t'interprètes. Parce que là-dessus, on n'a pas du tout écrit avec Ludo. Donc tu vois, sur le manoir, c'était quand même que Marc avait écrit dessus. Donc il y avait une sorte de lien. Mais là, on rencontre des gens qu'on n'a jamais vus. Enfin là, c'est vraiment oui, bonjour, j'ai pensé à toi pour ce rôle. Tu vois, c'était vraiment un truc comme okay. ça pour ce rôle principal. Donc c'est encore une autre étape différente dans la carrière. Et donc j'étais super content, surtout qu'on a beaucoup de références communes avec Julien et Rémi, les réals et moi-même. On a beaucoup de rêves cinéma, donc ça a très bien marché très vite. Donc j'étais très content de travailler avec eux.
Et est-ce que ça a eu le succès que tu espérais ?
Bah oui, enfin ça a vachement bien marché sur Netflix. Netflix était content, donc à partir de là. Moi, j'étais très content, hein, tu vois. J'ai pas forcément les chiffres, mais ça a fait des millions de vues, en tout cas, ça c'est sûr.
Bah cool.
Et à l'étranger et tout, donc c'était très très positif. Moi, j'étais très 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 content. Et moi, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait une suite ou quoi, mais bon, il y avait pas de. C'est en mode les sous-doués, quoi, tu vois. On se prend à se dire, ouais, pourquoi pas y avoir une suite. Il pourrait être en vacances. Peut-être cette bande pourrait être ailleurs. Mais bon, c'était pas à l'ordre du jour. Mais on s'était tellement bien entendu que moi, je serais reparti avec plaisir avec tous les acteurs et les réals pour d'autres aventures, tu vois, avec ces mêmes persos.
Bah moi j'ai vraiment bien aimé le film, donc s'il y avait une suite, je la regarderais. Je veux le mentionner, mais je trouve que Nicolas Bernaud est excessivement drôle dans le film aussi.
Génial.
Vrai, et vraiment top. Donc allez voir le film La Grande Classe sur Netflix. Ensuite, un peu avant le confinement, j'ai entendu que tu avais trouvé sur Insta comme une nouvelle envie, une nouvelle énergie de créer du contenu. Mm-hmm. Avec toutes les publications que tu fais sur Instagram, donc pour mm-hmm. des idées plus courtes, plus à l'arrache, tu retrouves un petit peu les sensations des premières vidéos YouTube.
Ouais, c'est ça, où ça va vite, c'est dans l'instant, tu vois, où tu te poses justement pas de questions, où à un moment, quand tu grandis, tu connais les tenants et les aboutissants du game et tout, et t'es là à te poser des questions, alors qu'en fait, avant, tu te posais pas de questions. J'ai retrouvé ça, du coup, sur Instagram. Cette première envie de faire les choses, parce que c'est là, vas-y, je prends mon téléphone, je prends un vieux filtre, je fais une blague à la merde et je suis content, quoi, tu vois. Je monte ça sur mon téléphone, tout va très vite. Il n'y a pas de, oui, alors attends, je te transfère les fichiers. Voilà, je suis comme ça. Je fais des captures de vidéos, je les prends pour info générique, je la mets. Enfin, ça va très vite et donc ça, créativement, c'est trop cool, quoi, de faire comme ça, comme une envie de pisser, quoi.
Mais avec la pandémie, tu as eu du temps pour créer, donc t'as publié presque tous les jours pendant le confinement.
Ouais.
Et est-ce que maintenant ça t'amuse toujours autant de créer pour Insta? Et est-ce que le fait d'être suivi par 1,5 million de personnes, ça change quelque chose pour toi?
Non, ça change pas. Et c'est juste que maintenant, comme ça a déconfiné, bah du coup, je suis plus chez moi et je travaille aussi ailleurs sur d'autres choses. Donc forcément, je fais moins de vidéos. Mais je choisis jamais quand est-ce que je sors des vidéos, tu vois. C'est-à-dire que, enfin, à l'époque, là, j'en ai fait tous les jours, mais parce que j'avais des idées vraiment tous les jours. Parce que j'étais chez moi, donc forcément mon cerveau il était en, mais ça sortait assez facilement. Et puis ensuite quand on a été déconfiné, j'ai repris d'autres activités, donc j'ai moins produit de nouvelles vidéos. Mais de temps en temps, je peux en sortir deux ou trois dans une semaine et ne plus en sortir pendant deux semaines. Tu vois, je me force pas, ça sort comme ça et c'est la meilleure, je trouve, façon de. D'être, tu vois, en accord, de pas se dire, ah, putain, il faut absolument que je poste de vidéos, là, il n'y a plus rien. De tomber dans le piège des réseaux sociaux, en fait. Piège assez facile, où on peut largement tomber, justement, dans ce truc. Ah, il faut que je crée, il faut que je fasse des trucs, tu vois. Moi, je le fais vraiment quand j'ai envie.
Bah, tu fais ça super bien parce que à chaque fois que tu sors un nouveau reel, avec ma copine, on fait « Il a sorti un nouveau reel, ok, il faut qu'on le regarde. » Parce que c'est tellement drôle, le dernier que tu as sorti avec les vidéos, avec les photos d'animaux.
Ah oui, avec beaucoup rire. Lebgill. Ouais, bah ça, tu vois, c'était donc avant-hier. J'ai déjeuné avec mon pote, donc qui est dans la vidéo. On va manger une galette chez WAM après, un petit café, et on discute. Et en fait, cette vidéo, je l'avais isolée avant, tu vois. De temps en temps, je tombe sur des trucs et je me dis, ça, je pense qu'il y a une connerie à faire. Tu vois. J'avais vu la vidéo là, de cette daronne qui se pose face caméra avec sa fille et ensuite ça switch et on voit une vraie lionne qui pose avec son lionceau pour expliquer aux éditeurs. Et donc, moi, je me suis dit, tiens, ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut se détourner. Et donc là, j'étais avec William, mon pote, et je lui dis, tiens, putain, regarde, j'ai ce truc-là. Est-ce qu'on ne prendrait pas la même pose que cette femme et sa fille, sauf que nous, ensuite, à la place de switcher avec une lionne et son lionceau, ça switcherait avec des paresseux, qui est un animal hilarant qui nous a toujours fait marrer avec mon pote William. Et surtout, William a parfois une tête de paresseux. Il a vraiment une tête extrêmement drôle. donc, je vous invite à regarder la vidéo, à comparer, et ça se fait parfaitement. Ça marche très bien. On s'est beaucoup marré à reproduire des positions de paresseux dans mon appart. Donc, on a fait ça comme ça. Si j'avais pas vu William, je l'aurais pas fait. C'est pas des trucs organisés comme ça. C'est des choses qui viennent simplement.
Ok, mais t'avais quand même sauvegardé l'idée dans ton téléphone.
Ouais, je l'avais sauvegardé parce que je me dis qu'un jour j'en aurais peut-être. Je pourrais en faire quelque chose. De temps en temps, si je traîne sur Insta, je vois des trucs passer. Parfois, il m'arrive de faire des captures d'écran parce que je sens que, voilà, j'ai pas le temps, mais je sens qu'un jour, peut-être qu'il y aura un truc à faire avec ce truc-là. Je la ressors et si j'ai une idée, bah, je le fais. Et si j'ai pas d'idée, ça sort pas.
Ok, mais donc c'est quand tu traînes sur ton téléphone, tu te dis, ah là, il y a un truc à faire. Tu ne cherches pas activement quelque chose en te disant, ah, il faut que je trouve un truc à faire, quoi.
Non, non, c'est vraiment que je scroll comme tous les humains, tu vois, et tout d'un coup, je tombe sur un truc au hasard et je fais, putain, c'est con ça. Est-ce que je peux peut-être le détourner? Si j'ai le temps, je le fais immédiatement. Mais de temps en temps, tu vois, ça va être, c'est un truc que je tombe dans le métro, tu vois. Donc, je la mets de côté et je fais, ouais, peut-être un jour. Parce que généralement, j'oublie ce que je capture. Et donc, c'est vraiment ensuite quand je veux faire de la place, parce que moi, j'ai pas iCloud, parce que je suis très. Je m'organise mal dans la vie et de toute façon, je vois pas pourquoi je garderais ces photos. Tous les mois, à un moment, je reviens dans mon téléphone pour supprimer des photos et je retombe sur des trucs que j'ai capturés et je fais, ah putain, c'est vrai! Ah ouais, putain! Et donc, ça se trouve, je le remets à nouveau de côté, je le relaisse pourrir pendant un mois jusqu'à ce qu'à un moment, il revient dans ma mémoire et ça se trouve, je le fais. Ça se trouve, j'ai supprimé des trucs que j'aurais pas dû supprimer parce que ça devait être peut-être des blagues et de temps en temps, je dois faire de la place sur mon téléphone. Tu vois, donc je suis vraiment organisé comme une chiasse.
Mais ça marche. Donc
Mais ça marche.
C'est ça.
Je pense que c'est comme ça que je suis. Donc, il ne faut pas tout d'un coup que je me dise, il faut que tous les mardis à 18h, il y ait une nouvelle vidéo. Tu vois, ça, en fait, ça, chez moi, ça ne marche pas.
Mais on, ça se sent que ce n'est pas calculé. Et en fait, c'est ça, ouais. Je pense que c'est ça qui marche. Parce que
ouais.
Même tes stories, moi, j'aime bien voir tous les jours les stories. Enfin, ça, presque tous les jours, tu mets les stories avec Morning Routine.
Ouais.
J'aime bien, ça me fait rire.
Ah ouais, ça, tu vois, ça c'est à chaque fois ça c'est un truc, ouais, c'est en fait j'ai commencé ce truc là et je me suis dit tiens, j'ai vraiment envie de le faire et de temps en temps, si tu regardes bien, c'est pas tous les jours, tu vois. De temps en temps, il y en a pas. Tu vois, là c'est pareil, tu vois, c'est bien quand même quand tu fais un truc qui s'appelle morning routine. Là, c'est intéressant de se dire quand même qu'il faut poster assez régulièrement, tu vois. Sinon, t'es pas en accord avec ton truc, tu vois. Moi, j'aime bien, si je rentre dans ce délire-là, c'est bien d'essayer d'en trouver souvent, tu vois. Mais mine de rien, de temps en temps, bah, j'en ai pas, donc j'ai pas que ça à foutre non plus d'aller chercher pendant une heure une vidéo qui va. Donc, je me force pas non plus, tu vois. Parce que généralement, une morning routine, je la trouve assez vite. J'ai mes comptes, tu vois, je dis, bon, alors ça va soit être un kick, soit un truc extraordinaire, soit quelqu'un qui saute d'un immeuble ou je sais pas quoi. Donc, ça va assez vite pour la trouver. Si le truc dure, si je commence à dire oh, vas-y j'en ai pas, je vais pas dire attends il faut absolument que je la cherche. Donc de temps en temps, il n'y en a pas et je poste d'autres trucs, souvent des trucs de chats, puisque j'adore ça. Okay. Et d'animaux. J'adore les animaux, en fait.
Je pense que ça s'est clairement compris si tu regardes un petit peu ton feed Instagram. Mais t'as plein de formats de vidéos sur Instagram. T'as certains où tu te moques un peu des influenceurs, certains où tu utilises tous les filtres possibles et imaginables. T'as des messages à des célébrités. Et bien sûr, il y a tous les Rémi. Donc Rémi Cascade, Rémi Combat, Rémi Réflexion, Rémi Corée, dont ouais. On parlera après. Rémi Playback, Rémi Dénonce, Rémi Crack, Rémi Dylan, Rémi Parcours. De tous les Rémi, ça serait lequel ton préféré ?
Oh là là, je crois que j'aime beaucoup Rémi Réflexion, c'était quand même assez... Je l'ai beaucoup aimé.
C'est celui que j'ai noté aussi, Rémi Réflexion.
Ouais, parce qu'il a une voix extrêmement énervante. En fait, j'ai vu ce filtre-là et la voix est sortie toute seule, quoi. Donc ça a très bien marché avec cette réflexion nulle où les gens vont dire « Ah ouais, c'est vrai, mais c'est nul quand même, c'est à chier, la merde ». Donc j'aime bien ce perso, mais tu vois, c'est pareil, là ça fait longtemps que j'en ai fait parce que j'en ai pas fait parce que donc généralement ça me vient comme ça, donc je me force pas, et d'ailleurs je sais même pas si je pourrais retrouver le filtre. C'est, il est plus dans mes, de temps en temps t'as des filtres de préférence et je sais pas, ouais. Il s'est enlevé, donc il faudrait que je remonte parce qu'à un moment j'ai crédité quand même ce filtre là, donc je pourrais peut-être le retrouver s'il existe encore, mais en tout cas là pareil, je me force pas, tu vois, c'est des trucs. Rémi Corée, c'est pareil, j'en ai fait beaucoup, mais si j'ai pas envie de danser, j'ai pas envie de danser, quoi. Mais ouais, Rémi Réflexion était drôle.
Bah moi, j'avais noté Rémi Réflexion et il y a une petite vidéo qui m'a fait beaucoup rire, mais je crois que j'étais en train de déjeuner, je me suis un petit peu étranglé en regardant ça. C'était le jeu du morpion que tu fais au plafond en parodiant Queen's Gambit.
Ouais.
Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire.
Ouais, bah ça, c'était pareil, tu vois. En fait, je regarde Queen's Gambit et voilà, j'ai l'idée, donc c'est parti, quoi. Je vais dans mon lit, machin. Ensuite, je demande à Ludoc, réalisateur du studio Bagel, de me faire le petit montage, de me faire le petit le morpion au plafond.
Au plafond.
Et de me donner l'animation. Et généralement, Ludoc m'a donné souvent des petits coups de main sur quand il faut faire des petits FX très vite fait, où je me dis, bon, lui, à mon avis, il va me le torcher en 20 minutes. Moi, je l'aurais fait en un jour. Donc, je le remercie pour ça, bien évidemment. Toujours là pour m'aider à faire quelques conneries quand j'ai des idées.
Mais le Rémi qui a eu le plus de succès, c'est Rémi Corée.
Ouais.
Ce personnage qui danse face caméra et qui, comme tu le dis, est aussi investi que son niveau est moyen plus.
Ouais.
Mais il est toujours bien calé dans le rythme. Et ça, c'est quand même à souligner. Il y a quand même des millions de gens qui ont repris tes Corées.
Ouais.
Et qui t'ont mis en story. Et puis, il y a même Canal+ qui t'a contacté pour en faire d'autres. Comment t'as réagi à tout ça ?
Bah, c'était génial. Bah, pour le partage, ça, c'est trop beau. Pour les gens qui reprennent tes chorés, ça va de la simple personne dans sa chambre à 20 personnes en même temps lors d'un anniversaire ou d'un mariage, tu vois. Ça, c'est absolument génial comme sensation. Ça touche, c'est trop bien, en fait. Et Canal, bah, c'est une vaste blague. Et comme j'adore les blagues, bah, j'ai dit oui. C'est effectivement Canal qui m'a proposé d'en faire plusieurs épisodes, donc d'être concrètement payé pour ça. Donc très drôle.
Ce qui me fait rire, c'est que c'est le premier programme que vous avez vendu avec ta nouvelle boîte de production.
Ouais.
C'est Rémi Corée.
Ouais, on espère produire des choses un peu plus ambitieuses. Mais on est très content que le premier programme produit avec cette boîte de prod soit Rémi Corée.
Mais donc, cette boîte de prod, tu l'as créée avec Axel Malivernet et Sarah... C'est Gélin ou Guélin ?
C'est exactement Sarah Gélin.
Et la boîte de production s'appelle Bell Boy, donc ouais. Groom en français.
Exactement.
Et donc, quels sont les projets avec... c'est le projet de film et les séries dont
le
on parlait tout à l'heure ?
Le projet de film, voilà, et quelques projets de séries, exactement.
Et alors, pendant le confinement, donc il y a eu tout Instagram sur lequel tu as passé beaucoup de temps, mais tu as aussi, dans un tout autre style, tourné avec Sébastien Vanisek.
Ouais.
Deux courts-métrages dans un style qui, lui, est plus sombre, plus brut. Un qui s'appelle Zer et un autre qui s'appelle Pas bouger.
Exactement,
dans lequel tu
ouais.
es particulièrement flippant,
je
trouve. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec lui et de faire ses courts-métrages ?
Bah ça, c'est via l'intermédiaire d'un pote qui nous a introduit, parce que donc Sébastien Vanisset, qui est le réalisateur, voulait faire des choses pendant le confinement, pareil. Et donc moi, il m'a présenté son court-métrage que j'ai adoré, un court-métrage qui s'appelle Crow, sous fond de protection animale et de combat de chiens, en fait, que je trouvais extraordinaire. Donc je me suis dit, vas-y, on tourne ensemble. Lui, il voulait tourner, il était excité par faire des choses. Moi, j'ai dit, j'adore ce que tu fais, donc on y va, on tourne à l'arrache, où on kiffe et on donne nos tripes. Et donc, on a tourné cette mini-série qui s'appelle Zer, que vous pouvez voir sur mon Instagram, sur l'histoire d'un comédien un peu raté qui va se retrouver dans des situations rocambolesques pendant le confinement, et un autre court-métrage qui s'appelle Pas bouger, sur l'histoire d'un personnage un peu énigmatique qui va se venger auprès d'une personne qui abandonne lâchement son chien, comme des millions de personnes chaque année en France. C'est deux projets que j'ai kiffé faire avec lui, et j'espère qu'on sera amené encore à travailler ensemble. On a un troisième qui est en montage, qui va sortir normalement dans pas longtemps, qu'on a tourné, il me semble, l'été dernier, sous fond de cartes Pokémon, qui va s'appeler Holo, comme holographique, comme des cartes holographiques. Et donc ça aussi, j'ai très hâte. Donc c'est toujours le même truc, un peu brut, un peu... donc voilà, et ça, j'ai hâte aussi que ça sorte. Ça sortira sûrement sur YouTube, en revanche.
Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, surtout Pas bouger, que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit, bon, quelle connerie il a encore fait sur Instagram. Mmh. Et donc, j'ai été surpris par le format. Mais c'est très bien fait, c'est très dur, mais pour une bonne raison, pour montrer que c'est vraiment horrible ce qu'on fait avec les animaux. Donc, j'ai adoré le principe, et ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui avaient apprécié ça et qui avaient repartagé. Donc, bravo pour ça.
Ouais. On était très contents parce qu'il y a eu vraiment un très bon accueil et beaucoup de partage. Et c'était très, très cool.
Est-ce que je suis revenu sur une bonne majorité des choses que tu as faites?
Ouais, là, franchement, t'as très, très bien bossé.
Merci, ça va. J'ai pas passé tout ce temps pour rien.
Non, bravo, bravo. Imagine, à la fin, je te dis, mais en fait, tout est faux.
Tout est faux. Toutes tes infos sont nulles. Bravo.
C'est erroné. Tout est erroné. Tu es un erroné. Tu es erronéman. Voilà. Il y a des erotomanes. Toi, tu es erronéman. Voilà. Voilà ce que tu es, Régis. Non, c'est parfait. Bravo.
Mais alors, pour terminer, j'ai deux petites questions avant le name dropping, si je peux encore prendre un petit peu de ton temps.
Dis-moi.
Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour en général?
Qu'est-ce que j'aime le plus? Je pense que le plus que j'aime, je pense que c'est jouer, quoi. Donc c'est une fois que voilà, une fois que ça tourne, ou une fois que je joue sur scène, pour le coup. Je pense que c'est vraiment quand t'es dedans, quoi. La chose se crée, prend forme véritablement. Et ce que j'aime le moins, par exemple, dans l'humour, enfin, par exemple pour les tournages, ça va être l'attente qu'il peut y avoir entre les prises. Certaines parties de mise en scène qui peuvent prendre du temps, l'installation, tout ça, où il faut rester concentré, mais ça fait partie totalement du métier de comédien, d'attendre, et parfois c'est très long, et de rester concentré et de donner le max. Une fois que tout est installé, une fois que ça tourne, c'est ton job d'être au top, parce que les gens, ils s'en foutent, les gens qui vont regarder, ils s'en foutent que il y ait un tel qui ait pris tant de temps pour installer la lumière, que vous ayez répété tant de temps. Et donc ensuite, il faut être dedans direct, il faut donner le meilleur. Et ça, c'est un peu chiant, mais ça fait partie du métier.
Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? Donc on l'a dit, peut-être le film avec Scorsese, mais ouais. À part ça, en général, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta carrière?
Plus de cinéma, que ma douleur à l'épaule disparaisse, parce que j'ai mal à l'épaule gauche, là. Je pense que j'ai trop forcé sur un truc. Je te dis, je crois que c'est une tendinite, mais j'ai pris le rendez-vous chez le kiné parce qu'en fait, je laisse le truc se faire et je crois que je suis en train d'accentuer ce truc-là. Donc voilà, que je refasse ma salle de bain à mon goût, parce que là, elle est niquée. Là, je vais changer. J'ai envie de changer. Et donc que je gagne suffisamment d'argent pour refaire ma salle de bain et qu'on se retrouve tous sur scène et dans les salles obscures sans masque le plus tôt possible.
Ben, je te souhaite tout ça, la salle de bain, le mal d'épaule et l'absence du masque.
Voilà, le public sans masque, parce que là, le public avec masque, ça, c'est un petit style Black Mirror, pas piqué les hannetons.
J'avoue. Eh ben, j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser, on peut passer au name dropping.
Au mien. Alors toi, Régis, raconte-nous un peu d'où tu viens, le début.
Mais...
un jour, ce sera ça, un jour, il y aura une petite inversion.
Mais en fait, il y a un épisode qu'on avait tourné où c'est un ami à moi qui me pose des questions parce qu'on me posait des questions par rapport à moi. Et donc, j'avais déjà fait l'exercice une fois.
Ah, d'accord.
Pour ceux que ça intéresse d'aller voir, c'est moins intéressant que Jérôme Niel, mais...
Mais mets le lien quand même, mets le lien.
Je mets le lien, on va avoir beaucoup de liens.
Voilà, bah c'est bien.
Eh bien, on peut passer au name dropping. Donc, comme je t'ai dit avant qu'on enregistre, je vais te demander de me donner un humoriste à chaque fois pour chaque question, mais tu dois te limiter à une seule personne, peu importe qu'il soit américain, français, québécois ou chinois, ce que tu veux. Bien. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré.
Je crois que Baptiste Le Caplain, je rigole beaucoup. Et non seulement il est sympa, mais il est surtout hilarant. J'aime beaucoup. C'est vraiment. Il y a un nouveau spectacle à chaque fois que tu vois Baptiste Le Caplain. Et c'est gratuit. Donc okay. Ça, c'est plutôt agréable. Mais c'est souvent, à chaque rencontre, c'est un nouveau spectacle. Ce gars est complètement fou. Il ne s'arrête jamais. Et je rigole beaucoup.
L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus?
Je ne sais pas. En vrai, je ne pense pas que. Je pense pas qu'il y en ait vraiment, quoi. C'est les inspirations. Moi, ça peut être dans les films, mais sur scène, en tout cas, que je trouve inspirant. Moi, j'ai adoré. Je suis fan d'un humoriste qui s'appelle Chris Esquer, que je trouve génial, qui a fait un spectacle il y a plusieurs années maintenant, je pense. Il était sur France Inter, sur Canal et tout, et sur Canal, qui faisait une revue. Une revue de presse des magazines totalement improbables, genre Tondeuse Magazine et tout, qui est pour moi un génie, quoi. Donc j'adore Chris Esquer. Mais je ne fais pas du tout du Chris Esquer sur scène, mais j'adore ce gars. C'est pour ça que, en tout cas, je le trouve inspirant pour faire quelque chose de particulier. Ou, comme je te dis, quand tu le vois sur scène, il n'y a que lui, c'est basta. Donc ça m'inspire en tout cas, en ce sens. On me dit, putain, quand tu montes sur scène, il faut que les gens se disent, ça, il n'y a personne d'autre, il n'y a que lui, quoi. Ça, c'est trop cool.
L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux?
Attends, est-ce que tu as une liste d'humoristes? Je trouve que Artus, il joue très bien. Je l'ai vu jouer notamment dans des films, dans le Bureau des légendes et tout. Et je trouve qu'il joue très bien, je dirais Artus. Comme ça, qui me vient, j'aime bien Artus.
L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux?
Écrit le mieux. Enfin, j'aime beaucoup Dave Chappelle. Donc ça, c'est américain. Okay. Il me fait beaucoup rire. Ses réflexions et tout, je dirais lui. Je vais à ce qui me vient. Je veux pas qu'on me dise « Et lui, qu'est-ce que tu penses ?» Et j'aurais dit « Ah putain, j'aurais dû dire oui. » Donc voilà, c'est ce qui vient comme ça.
Et pour la deuxième partie, maintenant, je te demande de choisir entre deux personnes et tu dois me dire laquelle des deux te fait le plus rire. Donc vraiment en termes de rire pour avoir quelque chose de plus ou moins objectif.
Mm-hmm.
Alors le premier choix, c'est un spécial pour toi, c'est deux comptes Instagram. Mais entre Kids Getting Hurt et Don't Mess With Afida, qu'est-ce qui te fait le plus rire?
Je prendrai, même si j'aime beaucoup les deux, je prendrai Kids. Parce que les enfants qui se font mal, c'est quelque chose que j'adore. Je pourrais regarder ça toute ma vie, non-stop. Ces petits bouts là d'humains qui se font mal, qui souvent se relèvent d'ailleurs. Je trouve ça hilarant. C'est du visuel, moi je suis très visuel. Je suis encore plus visuel que juste des punchlines, tu vois. C'est plus que tout pour moi, là.
Mais c'est très, très, très drôle. Surtout le dernier que t'as partagé avec le chien qui repousse la petite.
Laisse tomber. T'as des trucs improbables. Hein, et voir un petit corps comme ça se faire projeter à 70 cm du sol, tu sais très bien qu'il va rien avoir, en vrai. C'est ça, les trucs quand t'es petit, tu vois, tu étais vraiment en casse-cou et... Tu fais juste un petit mais en fait en vrai tout va bien. Donc, et tu sais que c'est un compte bien évidemment bienveillant, c'est-à-dire qu'il n'y a que des cascades où il n'y a pas mort d'homme, bien évidemment. Mais il y en a qui sont tellement violentes. C'est hilarant, moi ça me fait ça, j'adore ça.
Entre Steve Carell et Jim Carrey.
Ah, ça c'est trop dur, gars. Ça c'est trop dur parce que c'est exactement les mêmes. C'est dans le sens où c'est des kings de la comédie qui te font chialer aussi, quoi. Donc là, c'est dur, quoi. J'aurais bien aimé que tu me donnes, par exemple, Will Ferrell, et je t'aurais dit Steve Carell direct parce que le gars, il sait tout faire, tu vois. Sauf okay. que Jim Carrey aussi, il sait tout faire. Donc là, putain, là, c'est trop dur parce que.
Mais celui qui te fait le plus rire, vraiment en termes, c'est vraiment qui va provoquer le plus de rire sonore.
Putain, c'est trop dur parce que C'est trop dur. Là, j'ai envie de te dire, allez, je dirais Jim Carrey, mais je vais m'expliquer pourquoi, parce que j'adore Steve Carell maintenant. Parce que Jim Carrey appartient à ce truc nostalgique de ma première partie de vie, tu vois, où c'est ancré, quoi. Tu pourras pas... t'es ancré, c'est foutu, tu vois. C'est comme tu vois, la PlayStation 5 est une magnifique console, mais elle pourra jamais rien faire face à la Nintendo 64, parce que c'est foutu, c'est dans ma tête, c'est un truc, c'est... Tu peux pas te décoller de ça, quoi. Et du coup, Jim Carrey, c'est des Ace Ventura, des
Le Masque.
Irene, The Mask, qui sont là, ça partira jamais. Donc ça, c'est donc je vais partir sur Jim Carrey, ouais.
Alors maintenant, je vais prendre des gens qui sont un petit peu plus proches de toi, entre Adrien Méniel et Florent Bernard.
Salaud. Je suis obligé là.
Oui.
je peux, mais c'est les mêmes en fait.
Ça peut être une façon de justifier.
Pour ceux qui ne savent pas, donc ils animent ce qu'on appelle le Floodcast, animé donc par Florent Bernard et Adrien Méniel, qui sont des auteurs et des comédiens pour Adrien, réalisateurs pour Florent. Et donc ils ont le même, c'est les mêmes et en même temps pas les mêmes, mais ils ont les Adrien ou Flaubert. Non, je peux pas. Les deux, c'est trop dur et c'est même pas. Allez, si vraiment à un moment ça devait être une sorte de il faut le dire, sinon la terre va exploser. Je dirais putain, Floby, tu m'excuses, mais je vais partir sur Adrien. Tu vois, je dirais Adrien parce que Adrien, on a joué ensemble plus qu'avec Flaubert, parce que Flaubert alors qu'il pourrait jouer la comédie, mais il veut pas trop. Mais je partirais sur Adrien. Voilà, s'il fallait faire un jeu, je dirais ce Menielos, car on a joué ensemble aussi dans Groom. Enfin, il y a cette petite fibre en plus où j'ai pu passer encore plus de moments avec Adrien et donc encore plus rire. Donc, on parle de mathématiques. Voilà, là, on est tatillon, mais c'est pour donner de l'intérêt à ton jeu à un moment pour pas me débider et dire voilà, mais je sais très bien que j'aime beaucoup Flobier, qu'on rigole également beaucoup ensemble.
Entre Baptiste Le Caplain et Arnaud de sa mère.
Oh là là. Ah, c'est très dur. Alors, pour l'instant, je vais dire Baptiste Le Caplain. Parce qu'en plus, Arnaud de sa mère, j'ai pas vu son dernier spectacle. Mais là, t'es un salopard quand même. Parce que, effectivement, Arnaud de sa mère, j'aime beaucoup. Mais là, j'ai pas vu son dernier spectacle. Mais j'ai trop hâte de le voir. Mais je vais prendre Baptiste. Je vais prendre Baptiste Le Caplain là-dessus.
Entre Yacine Bellous et Kylian Kojandi.
C'est deux humours que j'adore, mais Yacine Bellous, c'est un de mes... C'est Yacine Bellous, quoi. Il n'y a pas de regarder les gens. Regardez. Et c'est plus un humour qui me correspond, quoi. Allez le voir quand il joue. Il joue très peu, donc profitez-en quand il joue. Mais c'est quelqu'un que j'avais vu en spectacle à Paris il y a quelques années et que j'avais trouvé absolument génial. J'ai vu deux spectacles à lui. C'est décalé, ça n'a aucun sens et du coup, j'aime bien. Quand tu pousses la réflexion dans le n'importe quoi comme ça, ça me touche toujours un peu plus que les autres très bons humoristes dont fait partie Kian avec aussi Navo d'ailleurs, ou une écriture au cordeau ciselé de ouf où je dis bon bah ça c'est absolument génial, mais dans les idées de Yacine et tout, c'est des trucs moi qui me font vraiment beaucoup rire.
Bah d'ailleurs Yacine et Kian aussi sont tous les deux des anciens invités du podcast, donc si vous voulez aller écouter, voilà. Profitez-en. Il me reste encore deux choix. Si ça ne t'ennuie pas.
Dis-moi, et ben moi c'est marrant parce qu'il me reste 10% sur mes écouteurs, donc on va être pile poil.
Magnifique.
Petos, le régissos.
Entre Alison Wheeler et Natou.
Entre Alison Wheeler et Natou, bah c'est Natou. Natou c'est la famille. Alison elle est géniale aussi, mais Natou on est amis, on se côtoie réellement. Donc là aussi on a dépassé des moments, des vacances ensemble, des instants où tu peux pas rivaliser face à Natou. En tout cas, dans mon cœur, c'est quasiment impossible, car Natou, je l'ai vu sous toutes ses formes, pas que dans des vidéos, mais aussi en vacances, entre potes, à faire des conneries. Donc, ils sont inégalables par rapport à ce que je peux connaître suffisamment même toutes les femmes confondues presque.
Alors, dernier choix, entre Axel Malivernet et Ludovic.
Bah, il n'y a pas de... Même chose. Axel, personne peut le battre. En fait, ça se comprend vite quand tu le rencontres, je pense. Okay. Tu es sensible à l'humour. Tu vois vite, tu comprendras vite pourquoi je te dis que c'est compliqué de le battre.
Ben, j'ai posé toutes mes questions. Il me reste la toute petite dernière que je pose en fin de tout épisode. C'est qui est-ce que tu aimerais entendre dans le prochain épisode ?
Qui j'aimerais entendre dans...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Dans le prochain. Donc toi, tu fais un peu n'importe qui ou enfin n'importe qui, c'est-à-dire c'est tu fais tous les corps de métier.
C'est toutes les personnes qui travaillent dans l'humour. C'est vraiment le point commun, c'est des gens qui veulent faire rire.
Ouais, bien évidemment, d'où le titre. Hein.
Ouais.
Ouais. Mais comme ça fait 2 heures et tout, j'ai la tête qui chauffe, donc forcément, je pose une question débile. Tu vois, c'est bien quand c'est toi qui lead le truc. Vaut mieux plutôt que je réponde. Donc qui on pourrait. Thomas VDB. Ouais, j'aime beaucoup Thomas VDB.
Ça marche. Très bon choix.
Voilà.
Ben voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci à toi.
Merci d'avoir pris le temps. C'est vraiment cool.
Avec grand plaisir. Moi, j'ai été très, très content.
Et merci à tous ceux qui ont écouté.
Merci. Salut tout le monde.
Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.